Bonjour, bon après-midi, bienvenue dans ce groupe de partage du dimanche 22 juillet 2012. Voilà, bienvenue à vous qui êtes autour de cette table dans cette belle journée d'été ensoleillée. Bienvenue à toi qui écoute en ce moment cet enregistrement et qui fait partie de notre groupe, de notre grand groupe, qui grandit de semaine en semaine. Voilà, avant de commencer ou d'aller plus loin, je vais faire résonner ce gong qui nous rappelle la présence de l'instant éternel. Voilà, c'est aussi le dernier groupe de cette période estivale. Il y aura une reprise au début du mois de septembre, vraisemblablement dans les premiers jours de septembre. Ceci aussi pour dire que ces groupes n'ont pas de valeur en eux-mêmes, mais sont des outils qui nous servent à rentrer à la maison. N'importe quelle expérience de vie qui peut se passer pendant ces mois d'été, de vacances, peut être aussi un puissant moyen de rentrer, hein, si nous mettons cette conscience qui dit que tout est soigneusement planifié, que nous ne rencontrons personne par hasard, et que dans ce monde, tout est utilisé, expérience positive comme négative, en apparence, pour nous indiquer la voie du retour chez nous. Voilà, donc ces groupes sont des groupes sur la non-dualité, sur la notion qui dit que tout est un, que nous sommes un, et que Dieu est. Et Dieu est tout ce qui est dans cette vision. Cette approche pour regarder le monde d'une autre manière. Quand Dieu est tout ce qui est, assurément, Dieu accueille tout, ne juge rien et embrasse tout, et j'en fais partie, comme la vague fait partie de l'océan, comme le rayon de soleil est issu du soleil et est l'extension du soleil, mais est indissociable du soleil, fait partie du soleil comme un tout. Nous sommes ces rayons qui rayonnons depuis la source, qui rayonnons qui nous sommes dans ce monde, même si il est considéré comme illusoire dans la non-dualité, puisque seul notre esprit est réel. Voilà, comme indique l'introduction d'un cours en miracle, rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela se trouve la paix de Dieu. Trois phrases simples, trois phrases pleines de sens pour moi, qui peuvent résumer tout l'enseignement non-duel d'un cours en miracle, à mon sens. Donc, si on fait la synthèse des deux premières phrases, tout ce qui peut être menacé n'est pas réel. Comme notre monde social, notre corps peuvent être menacés, alors ils ne sont pas réels au sens de tout ce qui est la réalité de l'existence, au sens de Dieu qui est la totalité de ce qui existe. Voilà, tout ce qui un jour cessera d'être ne fait pas partie de Dieu, ne fait pas partie de la seule réalité qui est esprit. Et cet esprit est invulnérable, incontournable, immortel, infini, non soumis à l'espace, non soumis au temps. C'est qui nous sommes vraiment, mais nous nous amusons à nous croire humains pendant un certain intervalle que nous appelons temps. et dans certains lieux que nous appelons espaces. Tout ça pour créer l'expérience parfaite qu'on appelle dualité et qui vise à apparemment à nous éloigner de la réalité comme à nous éloigner de l'amour, puisque l'amour est la réalité, comme cette belle comparaison de Simon Leclerc qui dit « Nous nous éloignons de l'amour comme si nous tendions un élastique. » Et nous nous éloignons très fort, très loin, et à bout d'un moment, nous lâchons et nous rentrons d'un coup à la maison. Voilà, je trouve que c'est assez beau. Nous sommes venus faire une expérience duelle, qui vise à avoir une perspective sur l'amour. Pour avoir une perspective sur l'amour, nous devons en apparence nous extraire de l'amour, créer une bulle dans laquelle apparemment le non-amour existe, créer cette dualité où il y a des opposés, alors que dans le monde de l'unité, seul l'amour existe, il n'y a pas d'opposé à l'amour, seul le bien sans opposé existe, et il n'y a que Dieu. Donc il n'y a pas de variation dans ce monde. Ça n'en fait pas un monde ennuyeux pour autant, puisque c'est pure félicité, pure gratitude. Certains anges nous transmettent par voie de canalisation. C'est très difficile de vous parler de la félicité pour vous qui connaissez le monde humain. Mais la chose qui s'en rapproche le plus, ça pourrait être imaginer un orgasme humain, multipliez-le par 100 et en permanence. Et peut-être vous aurez une petite idée de ce que nous vivons en termes de félicité à l'intérieur. Waouh, bon, ça donne envie, hein. Mais en même temps, même si j'ai jamais vécu, ça je l'ai vécu, mais je ne me rappelle pas, je crois tout à fait pouvoir admettre intuitivement cet état de bénédiction permanente, de joie permanente. Je peux l'imaginer, je peux en avoir la perception intuitive. Voilà, avec mes antennes divines, hein, le Saint-Esprit qui peut me souffler à l'oreille, oui, c'est là et ça t'attend, hein, ça attend ton bon vouloir de rentrer. Voilà, donc bienvenue dans ce groupe avec vos expériences quotidiennes. Vos expériences magnifiques, vos expériences difficiles. Bienvenue aussi à nos silences qui sont aussi porteurs de plein d'énergie. Et puis, je sens à nouveau de citer cinq phrases du cours en miracle qui m'invite à laisser faire les choses, à faire confiance complètement que cet après-midi va se dérouler sans aucune volonté particulière de ma part, d'une manière parfaite. Et ces phrases disent tout simplement ceci. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où je souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Voilà, et puis je terminerai en disant mon ressenti. Je ressens à la fois dans les messages reçus qui s'intensifient et dans ma perception du temps qui passe et des événements que je vis comme une accélération de plus en plus forte, comme un point culminant, hein, comme quelque chose d'exponentiel qui à chaque fois est amplifié et réamplifié et réamplifié. Je me réjouis, hein, je me réjouis parce que je sens que ça m'aide à augmenter mes vibrations, à faire confiance de plus en plus, à me laisser porter par ces vagues d'énergie, ces vagues d'événements qui portent aussi l'énergie, qui arrivent, qui sont là, qui sont autour de moi, et en lesquels j'ai une entière confiance. Voilà. J'ai parlé.
Le corbeau me demandant de parler, je prends le micro. Nous vivons tous les uns les autres comme un paradoxe permanent où nous sommes sur un chemin de réveil, où nous avons des moments de compréhension, d'éclaircissement, où tout d'un coup un livre, un message, une phrase, la rencontre de quelqu'un, une expérience particulière nous touche au plus haut point. Et puis nous le partageons avec des proches ou dans un groupe, ou d'une certaine manière. Et puis nous apercevons que ce que nous pouvons véhiculer, l'expérience que nous avons vécue, n'est pas transmissible. Nous apercevons que, par exemple, on trouve un message, un livre qui nous parle énormément, et puis on l'achète, on l'offre à quelqu'un, il ne le lit même pas. Et pourtant, cette personne a des dialogues avec nous par moments très profond, parce qu'il nous semble très profond. Et donc, on semble tout le temps, si on observe bien, avoir une expérience, vivre des choses, et en même temps, pouvoir en parler et ne pas pouvoir en parler. Et on s'aperçoit que, quel que soit ce qu'on peut partager, dire ou ne pas dire, ça va être perçu différemment par chacun d'entre nous. Par exemple, dans ce groupe, eh bien, il y a certains qui prennent la parole et puis ils vont toucher telle personne, telle autre personne, et au contraire, une autre personne trouve que ça ne les touche pas du tout. Et ça, c'est permanent. Permanent. Et nous apprenons tous, finalement, de plus en plus à lâcher prise sur l'impact de notre rôle. C'est-à-dire lâcher prise complètement sur l'effet de notre comportement, l'effet de nos paroles, de nos silences, de nos actions, de nos non-actions. Nous apprenons tous les uns les autres à lâcher prise et finalement à n'avoir aucune accroche sur l'impact qu'on peut avoir sur les autres. Ce qui n'empêche pas qu'on va vous dire « tu as un rôle à jouer, tu as une mission, je t'utilise à ma façon ». Mais cette façon, elle est infinie, elle est reliée à tout, et tu ne peux pas la comprendre. Et c'est le paradoxe dont je parle, dont je suis en train de parler. Et ça peut nous aider d'ailleurs de le partager, comme je suis en train de le faire, en disant « Ah oui, bon, ben ok. » Donc je m'occupe plus de savoir si y a un effet dans ce que je dis ou ce que je ne dis pas, dans ce que je fais ou dans ce que je ne fais pas. Je m'occupe plus de savoir si dans mes relations intimes, finalement, mon comportement plaît ou plaît pas, ou... Je commence à vraiment lâcher prise, totalement, totalement. Et aussi j'accueille mon ego, j'accueille mon illusion humaine, j'accueille ce conditionnement que j'ai choisi. Et justement je l'accueille parce que je l'ai totalement choisi, comme chacun d'entre nous. C'est pour ça que je suis en train là de revenir à la réalité de ce que nous sommes. Et la réalité c'est qui nous sommes, c'est nous sommes le tout. Et donc comme nous sommes le tout, nous sommes le divin qui s'exprime, qui crée. Eh bien, nous choisissons tous très exactement toutes les circonstances de notre expérience, y compris peut-être l'impression de ne pas être entendu, de ne pas pouvoir partager, d'être isolé, etc. J'ai fait un rêve ce matin, vers 5-6 heures du matin, ou même plus tard, parce qu'en fait, j'étais debout pendant 2 ou 3 heures, et j'étais avec les Américains, parce que comme il y a un décalage horaire, pendant plusieurs heures, par Internet, et ensuite je me suis endormi, et j'ai fait un rêve à ce sujet, qui était plus qu'un rêve. Et je me voyais dans un groupe, avec des Français autour de moi et aussi des gens qui parlaient anglais, mais il y avait des Français qui ne parlaient pas anglais. Et comme je travaille dans les deux langues, en français ou en anglais, je me suis mis à parler conscience avec une passion incroyable. Et en fait, je parlais anglais. Et j'étais pris par cette passion, par ce partage de ce qui m'animait. Et il y avait un feu qui sortait de moi, une joie profonde, des mots magnifiques qui sortaient en anglais. Et puis il y avait un intervenant qui était là, qui était d'origine de langue anglaise, et qui finalement, à un moment, me coupe la parole, commence à parler, et parle en français. Et donc ça me surprend un peu, ça me gêne un peu, et puis bon, ben, j'accueille, et tout d'un coup, je prends conscience qu'effectivement, je suis là à parler avec passion de quelque chose qui me touche le cœur. Mais tous ceux qui parlent français et qui ne parlent pas anglais ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Et ça me touche immédiatement et j'ai comme des larmes. Et j'arrête complètement ce discours, quelque plaisant qu'il puisse, ou quelle que soit son énergie, quel que soit ce que ça m'apporte ou ce que ça me fait sembler vibrer. Et je fonds d'amour pour ceux qui sont là. Et je me rends compte que la seule chose, disons, la seule chose, c'est notre relation d'amour les uns avec les autres. Et que ce qu'on peut dire ou ne pas dire, la langue qu'on emploie, le fait qu'on ait compris ou pas compris dans l'expérience humaine, n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est l'attitude d'amour, la présence. Et donc, je dirais, un lâcher-prise et un silence, même si on est en train de parler. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai eu tort dans ce rêve éveillé, parce que c'était plus qu'un rêve, que j'ai eu tort de parler anglais, etc. Non, j'ai fait ce que j'ai senti, parce que nous sommes tous innocents. Donc c'est simplement une observation qui est arrivée, qui m'a encore fait davantage focaliser sur le fait que la seule chose qui importe dans nos relations, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est cet accueil à l'amour, et ce oui à l'amour en permanence, qui, lui, cet amour transcende toutes les formes, tous les langages, toutes les actions, les non-actions, tous les livres, tous les enseignements, toutes les formes et les non-formes. L'amour, c'est qui nous sommes. Et ça, évidemment, nous le savons tous parce que c'est qui nous sommes. Et c'est pour ça qu'on arrive finalement à un sourire, puis finalement à un rire formidable, où tout va bien. Parce que chacun se réveille à qui il est, déjà. Donc il a tout en lui. Et donc l'impact qu'on peut avoir sur les autres, c'est pas notre affaire. C'est l'affaire de qui nous sommes. C'est l'affaire du réveil lui-même. Il n'y a qu'un réveil. Il n'y a qu'un éveil. Le courant miracle le dit, l'éveil de l'un, c'est l'éveil de tous. J'aime bien cette... Tiens, je vais parler encore anglais, parce que c'est un petit peu un de mes caprices. The awakening is one... The awakening in one is the awakening in all. L'éveil en un, c'est l'éveil en tous. Parce que nous sommes un. Et donc, nous avons été formatés, depuis qu'on est petit, à analyser, à séparer le bien et le mal, etc. Toujours analyser l'impact qu'on peut avoir ou que les autres peuvent avoir sur nous. Et finalement, nous sommes en train de tout lâcher, complètement, de plus en plus et très vite. Vraiment d'arriver vous vide à l'accueil. Et qu'est-ce qui se passe quand plus rien ne me touche? Je suis libre. Et qu'est-ce qu'est l'amour? C'est la liberté. Le courant miracle, par exemple, va nous dire « Dieu est liberté ». Effectivement, si je ne suis plus attaché à rien, si je suis libre. Et là, je vais ressentir effectivement une joie d'un autre ordre, qui est inexplicable. Comme disait Jean Klein avec le titre de son livre, d'un de ses livres, la joie sans objet. Il y a joie. Donc nous apprenons les uns les autres, finalement, à revenir à l'instant présent, à lâcher totalement ce qui semble être notre passé, ce qui semble être l'influence qu'on a pu avoir sur les autres, ou que les autres ont pu avoir sur nous, ou qui pourraient avoir maintenant. Nous lâchons aussi toute considération, toute attente sur un futur particulier. Et nous voilà dans l'instant, comme des petits enfants, qui savent vraiment qu'ils ne savent pas. Qui savent qu'ils ne savent pas. Qui commencent aussi à savoir que l'amour est la seule clé. C'est la seule énergie qui, dans ce monde énergétique, parce que tout est énergie ici, même si l'énergie est imaginée par le sans-forme, c'est imaginé d'une manière incroyablement magnifique. Eh bien, dans cette aventure énergétique, dans la matière, nous faisons tous le même travail. Hommes et femmes, intraterrestres, terrestres, extraterrestres, c'est un lâcher-prise. C'est une ouverture à l'amour. C'est je reçois l'amour, je le donne. Je suis un canal d'amour. Je suis un phare de lumière. Je suis la lumière du monde, comme tout le monde, évidemment. Et ça rejoint le point zéro dans l'instant présent, dans ce lieu là où je suis, qui en fait est une illusion, mais c'est un lieu, c'est un temps qui est illusoire. Mais ça, c'est ma réalité. Et dans ce petit point spatio-temporel, qui semble être mon petit monde tout à fait étriqué dans un univers gigantesque, eh bien, c'est là que je peux et je suis invité à m'ouvrir à l'amour. Et c'est toujours une question d'ouverture, parce que le lâcher prise, c'est pareil, c'est une ouverture. Si je ne lâche pas prise, je me ferme. Je m'agrippe à quelque chose. Donc nous apprenons les uns les autres à ne plus donner de valeur au rôle que nous semblons avoir ou ne pas avoir. Ça n'a aucune importance. C'est jouer à travers nous, dans une pièce de théâtre où chacun joue un rôle parfait, et où chacun a été soigneusement préparé par lui-même, avec un L majuscule, lui-même, par le tout, par le Christ que nous sommes, par ce que le cours appelle, celui que le cours appelle le Saint-Esprit, ont été préparés à jouer notre rôle parfait, et de toute façon, nous le jouons tous parfaitement. Parce que la pièce de théâtre est parfaite et est déjà terminée. Mais nous semblons la vivre dans un temps illusoire.
Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Sylvain, moi ça m'évoque que ces derniers temps, je me rends compte de plus en plus que je dis parfois des choses effectivement et que c'est l'ego qui parle, et je m'en amuse de plus en plus en fait. Je trouve que parfois je me rends compte que je dis effectivement on voudrait avoir un impact sur, avec une parole, et puis bon, ça tombe à l'eau. Et là où autrefois ça me décevait, aujourd'hui ça m'amuse plus de me dire c'était pas utile, ou je savoure le fait que ça ait de moins en moins d'importance en fait, et ça me procure en fait ce lâcher prise me procure une très grande joie. Et même dans les événements de ma vie où je me rends compte que toutes mes croyances s'effondrent, toutes mes convictions partent en fumée. Et je me sens un peu comme un papillon qui veut aller quelque part, puis de temps en temps il y a une grande bourrasque de vent, et puis je voulais aller butiner cette fleur-là, et puis finalement je vais aller me poser sur une autre, et puis parfois je vais revenir à mon objectif, et puis une autre bourrasque de vent va m'emporter, et je savoure ce lâcher prise de plus contrôler les choses, et de garder une volonté dans un objet, avec mon objectif, et en même temps de pouvoir ne pas m'y accrocher et de laisser faire. Et c'est vraiment, plus j'avance, et en ce moment, c'est vrai que ça va à toute vitesse, cette sensation-là va à toute vitesse, et comme je m'accroche à rien, même si de temps en temps je me promène encore avec mes convictions, comme je m'accroche de moins en moins à ce que je veux, et ben, de plus en plus de belles choses arrivent, en fait. Et tout devient cadeau, finalement. Alors bon, ça peut paraître un peu angélique de dire tout ça, mais c'est vrai que plus ça va, plus je trouve que les événements sont savoureux. Voilà, j'avais envie de partager ça.
Tu viens de dire que tous les événements sont savoureux, effectivement. Depuis 2-3 jours, j'ai observé en particulier les messages de Yeshua Online, là, qui arrivent tous les jours. Et là, il y a une invitation par Yeshua il dit en anglais, comptez vos bienfaits. C'est-à-dire, comptez vos bienfaits, et en fait, tout est bien fait, parce qu'en fait, nous créons tout. Donc, notre expérience que nous vivons, quelle qu'elle soit, qu'elle nous apparaisse positive ou négative, en fait, notre âme l'a choisi. Donc c'est incroyable, c'est magnifique. Tout ce que nous vivons vient de nous, vient de notre pouvoir créateur. Et nous sommes à l'origine, à la source de notre expérience, sans aucune exception. Si nous méditons là-dessus, c'est-à-dire si nous laissons ce que je viens de dire se poser en nous, si nous écoutons, nous ressentons ce que ça veut dire, ça devient effectivement, comme tu viens de dire, Carole, ça devient beaucoup plus une joie permanente. C'est incroyable ce que je vis. Même, par exemple, mettons, j'ai un contrôle fiscal, ou j'ai une rupture, ou quelqu'un qui m'en veut, ou n'importe quoi. Ou une perte d'argent. Je donne des exemples qui semblent négatifs. Mais j'ai créé ça. Quelle magnificence. C'est moi. Et est-ce que je veux le malheur? Est-ce que un être voudrait être malheureux? Non, bien sûr. Donc, puisque c'est moi qui ai créé ça, je l'ai créé dans la joie. Il y a bien une raison. Et donc, quand j'accueille vraiment cela, ce qui est un fait, effectivement, je commence à ressentir une joie, un émerveillement devant une expérience qui pourrait paraître négative et qui peut paraître négative vis-à-vis de mon entourage. J'ai d'ailleurs observé que assez souvent, je partage l'expérience que j'ai vécue, soit récemment, soit d'une manière plus ancienne, et je vois souvent des réactions de ceux qui m'écoutent, ou avec lesquels je partage, qui sont comme « Oh, mais c'est affreux, etc. » Et sinon, vous ne comprenez pas, je partage avec passion pour montrer à quel point cette expérience qui semblerait négative, en fait, est totalement un cadeau. Comptez vos bénédictions, et en fait, tout est bénédiction. C'est ce que nous dit le courant miracle en disant « Vous ne savez pas pourquoi sont faites les choses, en fait, tout est fait pour le meilleur de vos intérêts. » Et le meilleur de nos intérêts, effectivement, c'est tellement énorme, parce qu'on est tellement dans une illusion que on s'imagine que le meilleur de nos intérêts, ce n'est pas notre intérêt, mais non, c'est notre intérêt. Donc ce que nous vivons, c'est vraiment notre intérêt. Mais pourquoi est-ce que justement on ne veut pas l'accueillir? Parce qu'il y a une partie en nous qui ne veut pas entendre ça. C'est à cause de nos conditionnements et de notre fausse perception, et de nos fausses croyances. Et c'est pour ça que dans les messages de plus en plus, on nous dit, mais ne offrez vos croyances, offrez vos peurs, offrez vos angoisses. Ne restez pas dedans, accueillez-les, ok, et offrez-les à l'esprit en disant, je veux voir différemment, je veux percevoir différemment. Donc je ne nie pas ma perception erronée, je ne nie pas mon angoisse, je ne nie pas que la situation présente peut aussi bien me réjouir que de pas du tout me réjouir. Ça, c'est pas nier. Mais de plus en plus, comme tu viens de dire, Carole, il y a « je m'émerveille de ce qui se passe ». Et je dis merci, 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 merci. C'est comme « allez, je dis merci, je veux vraiment passer à une autre perception ». Là, je semble vraiment une victime, je semble menacé, ceci, cela, ou je me sens triste. Je fais exprès, encore une fois, de prendre des données négatives, exprès. Et là, je dis merci, je compte mes bénédictions. J'ai créé ça. Pourquoi ? C'est dans le meilleur de mes intérêts. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et donc, je passe au silence, je lâche prise. Je fais confiance à qui je suis, à qui nous sommes. Je fais confiance à la lumière, je fais confiance à la source, qui n'est qu'une source d'amour. Je fais confiance à l'univers, à l'armée des anges, à l'infini, ou l'armée de l'unité de toutes choses. Je fais confiance, car ça c'est moi, c'est nous, c'est qui nous sommes. Et donc évidemment, la moindre petite trace d'ego ne tient pas devant cela et s'effondre. Mais comme je crois à l'ego, puisque j'ai joué ce jeu-là à l'origine de cette aventure humaine, il y a une partie qui ne veut pas lâcher. Même ça, je l'accueille, je l'embrasse, je l'aime. Et nous sommes tous sur le même travail, tous. Quelle que soit l'apparence des expériences qui nous sont données, que nous nous donnons à nous-mêmes. Et la variété d'expériences, elle est infinie, bien sûr. Nous sommes chacun sur un chemin apparemment hautement individualisé. Mais profondément, c'est exactement le même chemin. L'apparence est totalement différente pour chacun. Et pourtant, nous nous réveillons ensemble. Et nous nous réveillons à quoi ? Au fait qu'on n'a jamais dormi, c'était une blague, une illusion, remarquablement faite, remarquablement imaginée, avec une puissance incroyable, une précision, une justesse. L'illusion semble vraiment réelle. Le temps semble vraiment se dérouler. On semble vraiment identifier un corps particulier, magnifique. Donc j'arrête. Dans l'instant, je m'ouvre à l'amour qui est infini, qui est un, qui ne juge rien, qui ne s'oppose à rien, qui est présence éternelle, ici et maintenant, à jamais.
Il y a beaucoup de choses qui résonnent en moi dans ce qui se dit aujourd'hui. Et j'ai l'intime conviction que, effectivement, le torrent de la vie nous mène là où nous devons aller. C'est évident. Mon expérience, j'ai vécu l'expérience d'une rupture. Cette rupture, pour moi, commence à être un drame. Et très vite, elle a provoqué une prise de conscience. Ça m'a propulsé vers quelque chose qui est maintenant mon chemin de vie. Et récemment, j'ai reçu un coup de téléphone de mon ancienne femme et je me suis rendu compte qu'il y avait de la culpabilité chez elle. C'est elle qui a provoqué la rupture, c'est elle qui m'avait trompé, entre guillemets, on peut dire ce terme-là. Et moi, donc, j'en voulais beaucoup et j'ai ressenti que chez elle, il y avait de la culpabilité parce que elle était très heureuse que j'aille bien, en fait. Et là, j'ai eu une énorme compassion pour elle. j'ai fondu d'amour, quoi. J'ai pardonné. Je lui ai pas encore dit que je la pardonnais, que c'était nos chemins de vie, que c'était parfait, ça devait être comme ça, que c'est une personne divine comme nous tous, et que nos chemins de vie, le torrent de la vie nous emmène, en fait, on va retourner à la maison, c'est évident, quoi. C'est pour moi, c'est un appel, c'est pas autre chose, quoi. L'amour, c'est la seule chose qui nous grandit. Je sais pas quoi dire autrement.
J'avais juste envie de dire que, pour rebondir sur ce que tu dis, Christophe, moi j'ai dit récemment devant mon fils que j'avais été heureuse d'épouser son père et j'étais heureuse de l'avoir quitté. Et tout ça est parfait pour moi. Je trouve ça, c'était savoureux. Juste ça, heureuse de l'avoir épousé et heureuse de l'avoir quitté. Et rien, il y a rien d'autre à, pour moi il y a rien d'autre à dire.
Effectivement, on est heureux, on commence de plus en plus les uns les autres à être heureux avec ce qui se passe. Je suis heureux d'avoir épousé telle personne, je suis heureuse de l'avoir quittée. Et nous commençons à comprendre que toutes nos relations, sans aucune exception, sont un jeu d'amour. Et l'amour n'a pas d'opposé. C'est-à-dire qu'à l'origine, puisque chacun est créateur de son expérience et que chacun est amour. Donc l'expérience, à l'origine, elle est créée par l'amour. Donc quand j'ai une relation avec quelqu'un d'autre, que ce soit une relation de partenaire amoureux, que ce soit une relation parent-enfant, une relation d'amis, professionnel, ce qu'on veut, ou politique, ou tout ce qu'on veut, c'est toujours la même chose, c'est une relation d'amour. C'est pour ça qu'en fait, toutes nos relations sont les mêmes. Et c'est pour ça aussi, par exemple, je dis par exemple, que le cours en miracle va dire « ton frère est ton sauveur ». Et le cours parle de notre relation, pas nos relations, notre relation. Donc, il parle de ta relation. Et cette relation, c'est toujours une relation de ce que je perçois comme étant moi, et puis quelque chose qui est extérieur à moi. Donc, quelqu'un d'autre, ou même une chose, ça peut être une voiture, ça peut être une étoile, ça peut être un animal, et évidemment, ce qui nous fait le plus travailler en général, c'est un autre être humain, ou des autres, ou d'autres êtres humains. Et nous commençons aussi à comprendre que personne ne nous doit rien et que nous devons rien à personne. Néanmoins, nous vivons dans un monde qui a des règles duelles, des règles de société. Ces règles, elles sont toutes, sans aucune exception, toutes les règles de la société, c'est-à-dire en clair, toutes les lois, sans aucune exception, sont faites à partir de la peur. S'il n'y a aucune peur, il n'y a aucune loi, parce qu'il n'y a rien à défendre, il n'y a pas et rien à obliger. Il y a, dans l'instant présent, une confiance absolue. Et donc, il y a harmonie absolue. Nous avons choisi une autre expérience, nous avons choisi une expérience duelle qui implique automatiquement l'attaque et la défense. Et donc, nous voilà, apparemment immergés dans un monde duel, et nous commençons à prendre conscience que tout ce qui est duel n'a pas de sens, que toutes les lois en elles-mêmes n'ont aucun sens. Par exemple, cette fameuse loi de non-assistance à personne en danger, qui paraît tout à fait raisonnable, et qui d'ailleurs entraîne beaucoup de choses et beaucoup d'actions juridiques dans un sens ou dans un autre, cette loi n'a aucun sens. Non-assistance à personne en danger, on n'a personne à assister, puisque chacun est le Christ, et le danger n'existe pas. Et en même temps, nous voici immergés avec une carte d'identité, un passeport, une identité sociale. Et nous voici immergés dans un lieu et un endroit particulier, avec apparemment des droits et des devoirs. Et c'est ça justement le défi fantastique. Et c'est là que nous commençons vraiment les uns les autres à nous réjouir et à nous émerveiller de ce jeu qui, en premier lieu, semble absurde et qui finalement est un cadeau magnifique. Et comptez vos bénédictions, nous avons choisi cette expérience qui paraît absurde. Si on regarde avec un autre regard, un regard non-duel, ça paraît totalement absurde, mais en fait c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'effectivement c'est l'occasion, dans ce chaos, dans cette boue, dans ce marasme, cette dualité, ce bien et ce mal apparent, ces dangers, ces besoins d'attaque, de défense, ces, donc ces polices, ces cours de justice, ces prisons, etc., toutes ces règles, ces frontières, etc., ces droits de douane et tout ce qu'on veut. Et là, nous sommes comme un poisson qui nage allègrement, comme un oiseau qui vole, comme un aigle, qui vole avec amour au milieu de tout ça. Et qu'est-ce que nous observons ? Des miracles en permanence. Alors, c'est pas étonnant que ce document énorme de 1300 pages nous arrive un cours en miracle avec ce titre un peu bizarre. Et puis, ça n'est qu'un instrument parmi d'autres. Mais c'est pas étonnant qu'il y ait ce titre qui, au début, peut paraître un peu curieux et qui souvent n'est pas bien compris. Et comme il dit au début, les miracles se produisent naturellement. S'ils ne se produisent pas, quelque chose a été faussé. Et qu'est-ce qui est faussé ? Notre perception, c'est tout. Évidemment, on a choisi exprès une expérience duelle, on a choisi exprès une non-réalité. Et la non-réalité ne va pas avec la réalité. Ce sont deux mondes totalement incompatibles. Et donc, nous voilà dans un défi fantastique. C'est vrai qu'on n'arrête pas d'en parler, bien on va en parler de plus en plus, mais franchement, en regardant en face, et en n'ayant plus peur de le regarder, ce défi qu'on a choisi, cette expérience de nous incarner à fond, nous, le Christ, la lumière du monde, l'infini, nous, l'un que nous sommes, nous imaginons être un petit point isolé, séparé du reste. Le jeu est formidable. Et nous sommes vivants. Nous sommes toujours vivants, parce que nous sommes la vie. Ça me rappelle l'expérience de Laurence de Bourbon-Parme, qui avait donc, à la suite d'un achat avec un partenaire, elle avait pu garder une plus-value très importante, des centaines et des centaines de milliers d'euros, et qu'elle a voulu le placer pour créer une association. Elle l'a envoyé à l'étranger et ça a été subtilisé, elle a tout perdu. Et donc elle a hurlé en disant même à ses guides, « Mais vous vous moquez de moi, regardez où j'en suis maintenant. » La réponse qu'elle a entendue à sa colère, ça a été, tu es vivante. Tu es vivante. Et nous sommes vivants. Nous sommes la vie. Et on ne dépend pas d'un compte en banque. On ne dépend pas d'une relation particulière. On ne dépend pas du fait d'avoir des enfants, d'être connu, d'écrire des livres, de bien parler, de mal parler, de bégayer, de pas bégayer. On ne dépend de rien du tout. Nous sommes l'amour. Nous sommes l'être infini. Nous sommes l'alpha oméga. Le je suis. Rien que le prononcer ce « je suis », c'est sacré au sens de « c'est vrai ». Et là, toutes les apparences s'effondrent, disparaissent, se dissolvent comme la brume au soleil du matin. Il n'y avait rien. C'était illusoire. Et nous commençons à, effectivement, rire de plus en plus, nous réjouir, apprécier la pièce de théâtre. Et donc, nous comptons nos bénédictions en permanence. Et quand on voit quelqu'un en prison, on sait que son âme profonde a choisi cette expérience. Quand on voit une relation difficile entre deux, bien sûr, on n'aime pas entendre des cris de colère ou des sentiments de jalousie. Mais on comprend. Et on accueille. Et c'est ça l'amour. Et là, je suis en train de parler de compassion. On prend avec. On prend tout ce qui est là, dans notre cœur, dans un amour inconditionnel. C'est nous-mêmes qui créons cela. Et donc toutes nos relations sont des occasions de pratiquer, de nous libérer les uns les autres. Et on se libère par des relations. L'an 2000, je crois, j'ai été à Amnéville. Mais hier, quand Licarol était venu pour canaliser Crayon, et j'avais fait un rêve le matin qui était plus qu'un rêve, c'était totalement initiatique, vers 6h du matin. Et après un long périple dans ce rêve, qui était vraiment plus qu'un rêve, c'était, ça avait un sens vraiment réel. Donc après des pérégrinations très prolongées, on va dire, je me suis retrouvé comme ça, debout. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que je semblais avoir la diarrhée. Donc ça coulait le long de la jambe, de ma jambe, et je me suis dit, mais qu'est-ce que vont penser les autres? Et j'ai commencé à avoir honte. Et à ce moment-là, il y avait à côté de moi une porte, donc j'ai poussé cette porte qui s'est ouverte. Et il y avait devant mes yeux une esplanade à l'infini, jusqu'à l'horizon, énorme, gigantesque, parsemée de milliers, de dizaines de milliers de douches qui sortaient du sol. Et sous chaque douche, il y avait deux, que ce soit homme ou femme, c'était deux personnes qui étaient nues, qui avaient exactement la même diarrhée que moi, et qui se douchaient l'un l'autre, sous la douche, chacun, et qui se douchaient l'un l'autre en éclatant de rire. C'est fantastique. Nos relations, vraiment, sont là pour nous libérer de cette image de diarrhée, de choses un peu nauséabondes et qui nous plaisent pas. Et c'est par nos relations et on se douche les uns les autres. C'est-à-dire on se fait le cadeau. C'est pour ça que le cours nous dit que les guérisons sont mutuelles. Ce rêve, c'était fantastique. Je me suis réveillé avec un sentiment de libération, de joie intense. Toutes nos relations sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux de libération. Ce sont des cadeaux qui nous aident à retrouver qui nous sommes. Et retrouver qui nous sommes, eh bien nous devons rien à personne et personne ne nous doit rien. C'est pour ça que les mariages, les contrats, etc. Ok, on le fait parce qu'on est guidé. Mais ça n'a aucun sens en soi. Un divorce, un mariage, aucun sens. Une promesse qu'on fait pour le futur, on va signer un contrat, ça n'a aucun sens. Je ne connais pas le futur. Mais je fais selon ma guidance. Ma guidance, par exemple, c'est de me marier. Ok, je me marie. Puis on me dit, ma partenaire me dit, je ne me sens plus en couple avec toi. Ok, c'est bien. Et donc, il y a divorce, il y a mariage, il y a enfant, il n'y a pas enfant, il y a ceci, cela. On n'est plus qu'observateur d'un processus qui nous émerveille à chaque instant. On devient amoureux, totalement amoureux, de ce qui se passe. On va dire même de ce qui semble se passer. Parce qu'en réalité, il ne se passe rien puisque tout est déjà fait et que tout est inventé. Mais ce qui semble se passer est incroyablement magnifique. Et on se réjouit justement de ce jeu. C'est le jeu lui-même qui nous émerveille et qui nous réjouit. C'est pas telle ou telle forme particulière, puisqu'on lâche prise de tout. Donc, par exemple, on va dire, on va créer un centre, par exemple. On va faire une association. On va, voilà. Ou on va faire de la permaculture. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas un but en soi. C'est une occasion de relation. C'est une occasion de partager l'amour. C'est une occasion d'étendre l'amour entre nous. C'est une occasion de vivre ensemble dans la corporalité physique, humaine, de vivre l'amour. Comme dit le courant miracle, le corps est un instrument de communication. Un moyen de communication. Mais qu'est-ce qu'on communique ? De l'amour, bien sûr. Donc à ce moment-là, puisqu'on vit que l'instant présent, à chaque fois, c'est je mets ce corps au service de la communication, c'est-à-dire de l'amour. Et donc tous mes gestes vont avoir une intention d'amour. C'est très facile, et on sait très bien de quoi je suis en train de parler ici. Et si justement on fait l'amour, mais on est en écoute totale, on est en, au service de l'autre. Mais au vrai service, c'est-à-dire le service de l'autre, c'est le service de moi-même, c'est une danse ensemble, une danse amoureuse. Mais à ce moment-là, toutes mes relations deviennent des danses amoureuses. Je suis à la caisse du supermarché, j'attends, et puis il y a quelqu'un qui se retourne, qui me fait un sourire, et puis la caissière qui ceci, cela, et puis je vais avoir un geste, un sourire, un regard. C'est une danse amoureuse. C'est vraiment ça. Vraiment ça. Et c'est quelque chose que nous expérimentons de plus en plus les uns les autres. C'est tout simple. Et ça se fait tout seul. Ça se fait parce que on lâche prise davantage. C'est tout.
Je te remercie pour ce que tu as dit tout à l'heure parce que ça m'a beaucoup touchée. Parce que je le vis un peu en. Enfin, c'est exactement ça. En plus, enfin, l'exemple que tu as choisi, c'était sur un livre. Enfin, c'est vraiment. Je peux le vivre assez souvent, de... enfin, quasiment tout le temps, de vivre. Enfin, le toit, c'était ça. C'est-à-dire, j'avais demandé à l'univers de me donner des réponses par rapport à ma vie en ce moment et je suis tombée sur un bouquin. Et bon, voilà. Et donc, j'avais la réponse, en tout cas pour l'instant, pour la journée. Et c'était il y a 2 jours. Et j'ai voulu l'expliquer à quelqu'un après. Et j'ai senti que mon truc d'avoir demandé... Et c'était... Voilà, il y avait un... C'est pas toujours facile pour moi de lâcher ce sentiment de... d'incompréhension, quoi, de pas sentir que l'autre il capte là où je suis et de pas, voilà, c'est le chemin aussi, hein, mais ça peut moi créer pas mal d'isolement ou de solitude, sentiment de solitude, d'isolement, de et parfois aussi de du coup d'adapter aussi mon discours à la personne que j'ai en face de moi ou de pas et du coup de pas être vraiment au niveau où je voudrais être parce que sinon je me sens incomprise ou même presque pervertie dans ce que je suis en train de vivre. Donc c'est assez pas facile. Et bon, alors faut lâcher ça, faut lâcher prise sûrement, mais mais bon, voilà. Enfin, pour l'instant, j'arrive pas à lâcher prise, en tout cas. Et ce que tu disais aussi par rapport aux relations, je trouve que c'est pas facile non plus parce que quand on est conscient aussi, enfin, moi, je me sens consciente de tout ça. Puis là, je me dis, mais on fait quoi, alors? On se marie, on divorce, on se sépare, on aime, enfin, voilà, évidemment, c'est tout ça à faire, mais en même temps, je trouve que c'est, enfin, voilà, je trouve que d'être, enfin, c'est à la fois beau et à la fois enfin, je vis les deux, enfin toujours pareil, hein, je me répète un peu quand je suis ici, sauf que c'est de moins en moins, plus en plus accepté, mais je vis un peu les deux, c'est-à-dire à la fois des joies effectivement sans objet et à la fois des choses qui peuvent être difficiles parce que décalé ou parce que il faut que j'adapte donc je suis pas moi parce que je suis consciente de ce que je fais donc j'ai deux regards en même temps je me dis bon bah je fais quoi puisqu'il faut quand même faire quelque chose mais en même temps effectivement tout est dans l'instant enfin tout est déjà fait enfin et je m'y paume un peu moi des fois j'avoue qu'en ce moment dans ma vie je suis même un peu paumée complètement paumée Je suis hyper paumée dans ces deux. Voilà, donc c'est drôle. Mais bon, enfin, vivre au jour le jour, c'est pas... Il y a des fois je me marre et des fois je me marre pas. Voilà, c'est dépendant de moi. Bon, voilà, mais effectivement, c'est drôle. Bon, voilà, merci.
Effectivement, quand tu viens de dire « je suis paumé », qu'est-ce que ça veut dire? On est habitué à regarder derrière et puis regarder devant. C'est-à-dire avoir des cartes, avoir des stratégies. Et en fait, ce qui me paraît insupportable, c'est que la liberté vient de la non-stratégie. Dans ce... J'ai beaucoup aimé le livre de Lee Carroll, cette parabole de Crillon qui s'appelle Le Retour, avec Michael Thomas à l'intention pure, et qui a un chemin initiatique où il visite 7 maisons qui ont des couleurs. Et la première des maisons, c'est la maison bleue. Et c'est la maison des cartes. Puis les cartes, alors il va dans cette maison et trouve un ange qui le nourrit, qui trouve une nourriture délicieuse, et puis au moment de partir, l'ange lui remet une carte. Voilà, c'est ta carte qui va t'aider en chemin. Et donc, Michael sort et s'en va pour aller dans la deuxième maison, qui est plus loin. Et en chemin arrive une énorme tempête, mais vraiment une tornade. Il est plaqué au sol, il a l'impression qu'il va mourir, et il entend l'ange qui lui parle et qui lui dit « regarde ta carte ». Il arrive à peine à l'extirper, car il a peur que le vent la déchire. Finalement, il arrive à regarder sa carte et il y a marqué « Vous êtes ici ». Rien d'autre. Voilà la carte. Donc, c'est exactement ça. Et quand tu dis « Je suis paumé », c'est exactement ça. On est paumé par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on croit être une sécurité, à ce qu'on croit être, disons, un sauvetage par une stratégie particulière. Ça peut être un compte en banque, ça peut être une relation particulière, ça peut être une position sociale, un nouveau job, ce qu'on veut, hein, une maison, un appartement, tout ce qu'on veut. Des enfants, enfin bref. Et en fait, c'est pas vrai. Donc, il y a quelque chose qui fait peur. Et effectivement, on peut dire que quand l'ego... Parce que l'ego est appelé à se désagréger, qu'on le veuille ou non. L'ego, c'est une illusion. Et notre âme est en train de se réveiller au non-ego. L'ego n'existe pas. Mais il semble exister, donc il s'agrippe à des stratégies. Et quand je dis je suis paumé par rapport à quoi? Je suis paumé par rapport à des stratégies imaginaires, par rapport à une carte. D'ailleurs, on entend dans les groupes, les uns les autres, on dit, mais dans telle circonstance, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il n'y a jamais de réponse. C'est jamais à faire. C'est comment je vais être dans cette circonstance? Est-ce que je vais être dans la peur ou dans l'amour? Est-ce que je vais être dans la fermeture ou dans l'ouverture? Et qu'on le veuille ou non, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi qu'on le veuille ou non, c'est ça? À cause de qui nous sommes? À cause de la vérité. Parce que la vérité, c'est qui nous sommes. La vérité, c'est Dieu est. Dieu est. Dieu ou l'alpha, l'oméga, ce qui existe, la vie est vie. La vie est vie, elle se perpétue elle-même. Dans la nature, par exemple, mais la nature, elle s'autodévore tout le temps. Hein, comme je dis souvent, des poissons font 10 000 œufs, et ben, ça veut dire qu'il va y avoir un seul poisson, donc tout est nourriture. Donc la vie se nourrit elle-même de la vie. Tout ça, évidemment, c'est dans des formes apparentes. Et on commence à comprendre que ce qui importe, c'est pas les formes qui se sont à l'infini, se multiplient, semblent naître, vivre et mourir, ou disparaître. Ce qui importe, c'est la source. Et la source, c'est nous, c'est qui nous sommes. C'est pas le petit personnage que nous semblons être. Donc quand je dis « je suis paumé », c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est paumé? C'est l'illusion que je crois être. C'est le petit personnage que je crois être, qui effectivement est menacé partout en apparence. D'ailleurs, il est condamné à mort parce que le corps va disparaître. Il sait rien. Il a beau avoir fait des études, avoir fait un diplôme, avoir de l'argent en banque avec je sais pas quoi, finalement il est vulnérable. Et il le sait, mais il veut pas le voir tellement c'est terrifiant. Donc je suis paumé. Effectivement, à ce niveau-là, on est tous paumés complètement. Complètement. Et on regarde en face, bah oui, je ne sais rien. Et quand Jésus nous disait il y a 2000 ans, redevenez comme des petits enfants, le petit enfant, il prétend pas savoir. Il dit, papa, je te tiens la main, tu me conduis. Eh ben, c'est ça. Et on se fait conduire parce qu'on est paumé. on se fait conduire par qui nous sommes. C'est pour ça qu'on dit « demander de l'aide ». Je ne sais rien, je ne sais pas, je ne connais pas le chemin en retour à la maison. Mais qui je suis le connaît. Et donc je prends la deuxième place, comme dit le courant miracle, pour gagner la première. Il n'y a qu'une place, c'est celle que je n'ai jamais quittée, c'est la place, c'est qui je suis, c'est qui nous sommes, c'est le paradis. Mais dans cette illusion, je prends la deuxième place, c'est-à-dire je vais dire, ok, tu conduis ma vie, je ne suis qu'un canal, je vais parler, tu parles à travers moi, utilise mes pieds, mes mains, utilise ce corps, dans l'amour, je veux servir. Et on commence à comprendre que effectivement, ce qu'on peut faire de plus réjouissant dans cette incarnation, dans laquelle nous baignons tous, les 7 milliards que nous sommes, eh bien, ce que nous pouvons faire de plus réjouissant, c'est le service. C'est la voix du serviteur. Je veux vraiment être au service. Comme disent les 5 phrases que la vie recite régulièrement à chaque groupe, je ne suis ici que pour aider véritablement. Véritablement. Donc je représente celui qui m'a envoyé et je ne me fais aucun souci parce que celui qui m'a envoyé va me diriger pour ce que je vais dire et ce que je vais faire. Et je suis heureux d'être ici là où il souhaite que je sois. Et comme il le souhaite, j'y suis. Ce qui veut dire en clair qu'on est tous à notre place. Parce que le souhait de Dieu, il est accompli immédiatement. Donc on est tous parfaitement à notre place. Et évidemment, il y a guérison, dont je serai guéri dans le laissant m'apprendre à guérir, ou m'enseigner à guérir. Et comment est-ce qu'on guérit? En lâchant prise. Et peu à peu, je commence à comprendre que tout le monde est guéri. Que la maladie était imaginée. Que le manque est imaginé. Que la douleur est imaginée. Elle est vécue comme réelle, bien sûr. Oui, c'est pas agréable. Évidemment, on a une émotion négative, ce qu'on va appeler négative, qui nous est désagréable. Et on n'a pas envie. La culpabilité nous est désagréable. Mais quelque part, on s'y accroche. En disant, oui, je suis vraiment coupable, vous voyez. Donc, ne me punis pas trop, parce que, je plaide coupable. Ça fait, oui, alors ne me punis pas. Je suis terrifié, j'ai peur de Dieu, comme dit le courant miracle. Le dernier obstacle à la paix, c'est la peur de Dieu. Parce qu'évidemment, on se sent isolé et on a l'impression qu'on a raté quelque chose de fondamental. Donc il y a une culpabilité profonde, très très forte. Mais quand je reviens à ce qui est vrai, c'est le fils prodigue qui n'est jamais parti de la maison. Et donc j'accueille, je me détends et j'accueille mon innocence, comme j'accueille l'innocence de tous mes frères et sœurs, qui sont l'expression de Dieu, l'expression de la source. Ça, c'est la vérité. Je m'accroche à la vérité, au sens de vraiment, je m'y agrippe. Je ne lâche pas ce qui est vrai. Et quand on parle de lâcher prise, je lâche prise de quoi? Mais de l'illusion. Et donc, quand je dis je m'y accroche, c'est pas évidemment une forme particulière, c'est quelque chose que je veux vraiment en moi. Je choisis la vérité parce que c'est la vérité. Je choisis ce qui est. Et c'est pour ça que, par exemple, le symbole de Michael et de son épée, qui a son épée, il sépare le vrai du faux. La parabole du bon grain et de l'ivraie, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est si important de partager entre le vrai et le faux? Parce que nous sommes créateurs, parce que nous sommes qui nous sommes. Et personne ne peut aller contre nos croyances. Donc on s'est amusé à croire à la séparation, mais on vit la séparation. Avec la souffrance que ça implique. Mais on commence à en avoir marre. Et comme nous sommes le créateur de ça, qu'on le veuille ou non, si on continue à vouloir la séparation, on va la vivre. Si je continue à me sentir victime, je vais vivre le fait d'être victime. Donc je vais créer des bourreaux. Et je vais jouer des rôles apparemment victime-bourreaux. Parce qu'entre nous, quand un nazi ou un SS est dans un camp, on dit le grand méchant, mais en attendant, lui, il a été enrôlé, il est soldat, et il a le cerveau lavé, et il fait son boulot. Et c'est pareil dans les camps de Khmer Rouge, quand ils sont là à surveiller, à torturer des gens, mais eux, ils ont peur, et tout le monde a peur, et donc les SS ont aussi peur. Et Hitler, il a aussi peur que les autres. Et les Illuminati, etc., tout le monde a peur ici. Donc les bourreaux, les victimes, tout le monde est terrifié. Et tout le monde se sent coupable. On a envie de ça, on a envie de continuer, et maintenant on commence à se réveiller et dire, mais qu'est-ce que je choisis? Je suis maître à bord. Et c'est pour ça que ça commence à devenir important et fondamental de prendre la pleine responsabilité de mon expérience. Parce que si je ne prends pas cette pleine responsabilité,
et que je me sens encore victime des autres, ou de Dieu, ou du Saint-Esprit, ou de je sais pas quoi, ou des prêtres, ou du pape, ou de je sais qui vous voulez, ou d'hommes politiques, ou de mes parents, ou de mes enfants, ou de qui vous voulez. Je ne suis pas qui je suis. Je ne vis pas la réalité que je suis, que nous sommes tous. Mais je suis créateur. Et donc, je vis mes croyances. Alors effectivement, on a choisi un monde fou. On a choisi de s'immerger dans une illusion de dépendance, d'être un petit point comme ça, isolé, donc vulnérable. Très bien, j'accueille cette expérience. Je l'accueille avec amour, totalement. Et justement, c'est cette dynamique d'amour où je deviens amoureux de tout. Et à ce moment-là, mon expérience change, c'est-à-dire que c'est pas la forme qui va changer. Mon compte en banque peut-être ne changera pas, ou ceci, cela, mais la façon dont je vais voir les choses va totalement changer. Et donc je vais être libre, enfin retrouver cette liberté que j'ai toujours été d'ailleurs, que nous avons toujours été. Et je vais retrouver la joie. Et notre travail, notre mission ici, si on peut parler de mission, c'est justement de rayonner la joie. Nous ne sommes pas venus ici une nouvelle fois pour encore vivre des drames. Et vivre être torturé, être mis sur des croix ou ailleurs, enfin bref, en prison. Non, nous sommes venus pour rayonner la joie. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce que nous disent d'ailleurs beaucoup de messages de plus en plus. C'est toujours réjouissez-vous, vous êtes arrivés, et vous allez vraiment irradier, rayonner la joie, le bonheur, l'harmonie, le miracle, les guérisons, des nouveaux talents, des nouvelles façons de vivre ensemble, etc. On est arrivé. Parce que nous sommes créateurs. Mais vous comprenez bien que on ne peut pas faire l'économie de la conscience. Parce que c'est la conscience qui fait tout. Nous vivons tous nos croyances. Et si je crois encore que je suis victime, je vais vivre l'état de victime. Et je crée en plus de ça le bourreau. Nous sommes qui nous sommes. Nous sommes l'expression de la source qui est créatrice à jamais. Donc nous sommes créateurs à jamais. C'est fondamental parce que c'est ce qui est. Et quand cette notion, quand la vie nous cite toujours, en général au début des groupes, Dieu est, cette phrase que Jésus vivait, Dieu est. Et Jésus d'ailleurs vivait, il était très attentif à son entourage. Beaucoup plus qu'on pense. Bien sûr, on le présente comme un rôle d'enseignant. C'est juste. Mais en fait, il considérait que tout son entourage, chacun l'enseignait. Et qu'il savait très bien que ce qu'il partageait était très peu compris dans l'ensemble. C'était pas facile pour lui. C'est beaucoup plus facile à l'époque actuelle. Mais à l'époque, c'était pas évident. Mais en même temps, il était toujours remis en question, très observateur, très à l'écoute des uns et des autres, en disant, qui est là ? Ok, il y a une apparence de corps, mais ce n'est pas un corps. C'est pour ça qu'il dit, par exemple, quand on lui parle que les pharisiens et les autres lui disent, mais et les enfants d'Abraham, et il dit de ces pierres-là, parce qu'il est sur le chemin, il y a des pierres par terre, il dit de ces pierres, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, ces pierres-là n'ont pas plus de valeur que le corps. Ce sont des corps, ça on peut en faire à l'infini. Donc on peut faire survivre des enfants à Abraham, c'est des corps qui naissent, qui vivent, qui meurent. C'est pas, mais qui nous sommes ? Et donc, en face de moi, je parle au nom de Jésus là, quand il s'avance dans un village et puis qu'il y a une femme à la margelle du puits qui lui offre un verre d'eau, et qu'après ça il y avait ceci, cela, où il y a quelqu'un qui l'invective sur le chemin, ou un centurion qui lui parle, ou un soldat qui le fouette avant d'être crucifié. Qu'est-ce qu'il voit ? Ou qu'est-ce qu'il est appelé à voir ? Qui y a là ? Et il voit effectivement, il a une profonde compassion. Il comprend que ceux qui le fouettent et finalement ils sont trop contents de tenir enfin un de ces juifs parce qu'ils ne se sentent pas aimés par la population, parce qu'ils sont occupants. Tiens. Et donc il y a toujours ces notions de culpabilité, de ne pas être aimé. Il y a chasse chez l'occupant et l'occupé, bien sûr. Il y a chasse chez les juifs et chez les SS. Hein, il y a ça partout. Et il y a une peur profonde. Hitler, c'est un petit enfant qui a peur, vous comprenez bien, Kadhafi, c'est pareil. Et qui vous voulez, et moi aussi, c'est pareil. Nous aussi, en tant qu'égaux, c'est pareil. Il n'y a qu'un seul égo. Et on sait très bien ce que c'est parce qu'on a choisi cette expérience d'égo. On peut dire qu'il n'y a qu'un seul être de lumière et qu'un seul égo. C'est des manières de parler, tout ça. Mais ça peut nous aider. Alors, nous sommes créateurs. Nous prenons pleine responsabilité, la pleine responsabilité de notre expérience. C'est nous-mêmes qui avons créé ça, par amour, pour faire une expérience, pour s'amuser. Et effectivement, le vivant, la vie, s'amuse. Elle s'émerveille. Notre âme profonde est heureuse, elle s'amuse. Elle amasse des expériences et elle s'émerveille. Nous commençons enfin à le comprendre ici. Et donc, quand je dis « je suis paumé » et qu'on me donne ma carte et qu'on me dit « tu es ici », ah oui, je commence à comprendre, effectivement. Et je croyais que j'avais l'illusion que j'allais m'en sortir avec des stratégies. Eh ben non. Mais mon ego n'a pas envie d'entendre ça, ça certainement pas. Et donc, il a dit « je me sens paumé hein. ». Et je sais plus où j'en suis et je me sens perdu. Oui, ok. D'ailleurs, on nous dit souvent, vous êtes perdu, tant mieux. Hein, on a ça comme message. C'est pas évident. Mais tant mieux, ça veut dire, parce que vous êtes en train de vraiment de passer à autre chose et parce que vous oubliez que vous êtes créateur. Donc, quand, tant vous croyez à l'ego, ben vous vivez cette réalité égotique qui est souffrance. Et quelque part, vous le voulez pas et vous le voulez, c'est les deux à la fois, donc c'est conflictuel. Ah, bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais, tout va bien. Puisque c'est moi la clé, puisque c'est moi le créateur, je choisis l'amour, c'est tout. Mais quand? Bah maintenant. Oui, mais les autres, oui, mais il n'y a que moi. Puisque je suis responsable que de ma vision, c'est tout. Je ne suis pas responsable de la vision des autres. Je vis mes croyances. Comme dit Betty la Grande Joie, on ne rêve que de soi. Donc je vis mes croyances, nous vivons chacun nos croyances. Et ça, je commence à en prendre la responsabilité et à dire, je choisis à nouveau. Je me tiens debout, je ne plie pas, je reste droit face à ce qui est vrai. Quelles que soient les croyances des autres, je comprends le rêve de mes frères et sœurs, mais j'arrête de rêver. Bien sûr, je vis un rêve ici, je le sais. Seulement, je suis réveillé dans le rêve. Vous comprenez ça, la subtilité? Voilà. Et donc, quand je dis « je me sens paumé », oui, je comprends, oui, d'accord. Et donc, on est en pleine compassion devant toutes les réaction de nos frères et sœurs qui disent bah, « je suis paumé, j'en ai marre, je me sens désespéré ». Oui, je comprends ça. Je comprends ça, je comprends. Mais je t'accueille dans mon cœur. Alors, je ne sais pas, alors chaque fois j'écoute ma guidance pour savoir ce que je vais dire ou ne pas dire. Je suis en amour, c'est-à-dire en accueil. En permanence.
Voilà, ce qui me vient de dire, c'est ne demandons pas à notre ego de nous sortir du rêve. Il ne sait pas le faire. Mais nous avons un partenaire qui sait le faire. Et j'ai ouvert le cours en miracle au paragraphe 18, la disparition du rêve. Et il y a un chapitre 5. Sous paragraphe 5, le rêve heureux. Et ça parle vraiment de ça. Et même si c'est dit et redit que de nous-mêmes, nous ne savons pas quoi faire, depuis notre ego, nous ne savons que inventer des stratégies qui ne nous mènent pas au bonheur, nous tentons depuis l'illusion de sortir de l'illusion. Par nous-mêmes. Et c'est pas possible. Et ce paragraphe, il dit des choses très claires. Prépare-toi maintenant à ce que soit défait ce qui n'a jamais été. Si tu comprenais déjà la différence entre la vérité et l'illusion, l'expiation n'aurait pas de signification. L'expiation, ça veut dire la vision que tout est un, dans ce sens-là. L'instant saint, la relation sainte, l'enseignement du Saint-Esprit et tous les moyens par lesquels le salut est accompli n'auraient pas de but. Car ce ne sont tous que des aspects du plan pour changer tes rêves de peur en rêves heureux, desquels tu t'éveilles aisément à la connaissance. Ne te mets pas en charge de cela, car tu ne sais pas distinguer entre avancé et retraité. Certaines de tes plus grandes avancées, tu les as jugées comme des échecs, et certaines de tes plus profondes retraites, tu les as considérées comme des succès. Ne t'approche jamais de l'instant saint après avoir essayé d'enlever toute peur et toute haine de ton esprit. Ceci est sa fonction. Au Saint-Esprit, entre guillemets. Ne tente jamais de passer sur ta culpabilité avant de demander de l'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit. Ceci est sa fonction. Ton rôle est seulement de lui offrir un petit désir, de le laisser enlever toute peur et toute haine, et d'être pardonné. Sur ta petite foi, jointe à sa compréhension, il bâtira ton rôle dans l'expiation, tout en s'assurant que tu le rempliras aisément. Avec lui, tu bâtiras une échelle plantée dans le roc solide de la foi et s'élevant jusqu'au ciel. Or, tu ne l'utiliseras pas pour monter seul jusqu'au ciel. Voilà, dans le rêve que nous vivons, qui est souvent un rêve malheureux, en ne nous fiant pas seulement sur la partie séparée de notre esprit, divisée, que nous appelons l'ego, nous pouvons inviter un rêve heureux à se passer, au sein même de l'illusion, c'est-à-dire un rêve basé sur la vérité, plutôt que basé sur des choses fausses, sur des stratégies qui ne mènent pas au bonheur parce que nous les avons essayées et essayées et essayées maintes fois dans notre vie. Voilà. Apprenons humblement à demander de l'aide à la partie élevée de notre esprit, qu'on appelle notre soi supérieur, notre Saint-Esprit, notre intuition, etc. Si nous demandons humblement et si nous reconnaissons que depuis l'ego, nous n'avons pas de solution, cette solution sera donnée parce que nous demandons cela à nous-mêmes. Donc nous ne pouvons pas ne pas entendre la demande. C'est comme cette blague qui dit « Dieu aide-moi à gagner au loto » et puis Dieu répond « Moi je veux bien, mais joue, joue !» Alors, jouer pour nous, c'est demander, c'est se rappeler que le divin, c'est nous. Et que il y a une partie qui a voulu jouer un rêve de séparation, donc, ok, voilà, tu veux un rêve de séparation, vis ton rêve de séparation. Tu veux sortir, demande-le, puisque c'est chaque seconde par tacite reconduction, je ne dénonce pas le rêve. Si je ne dénonce pas le rêve, c'est que je veux continuer. Parce que le rêve est là pour m'apprendre des choses. Mais si j'ai assez joué, ben je veux dire, c'est bon, le rêve malheureux, j'ai donné. Mariage, séparation, divorce, enfant, petit bonheur, grand malheur ou grand bonheur, mais qui ont toujours une fin. Alors, voilà, maintenant, j'ai assez joué. Je veux sortir de la pièce de théâtre. Je veux... me rappeler de qui je suis. Je veux retourner à Dieu, retourner dans ce qui depuis le limité ne connaît pas l'illimité, ce qui depuis le fini ne connaît pas l'infini. Ça a oublié cette perception, a oublié ce qui est vrai. Et en même temps, j'ai l'intuition profonde que cette vérité, je ne peux pas la perdre. Hein. J'ai l'intuition profonde que je sais comment aimer véritablement, mais que momentanément, j'ai voilé cette conscience d'aimer véritablement. Alors, j'ai aussi ouvert ce très beau livre, L'Évangile selon Jésus, hein, qui parle d'amour, de guérison et de pardon, qui est canalisé par Paul Ferrini. Et il parle de, dans le chapitre qui dit « Se libérer de l'attachement », il parle de la gloire de Dieu. Voilà. Comment parler de Dieu depuis un endroit qui apparemment s'est séparé de Dieu? C'est difficile. Comment le fini peut-il embrasser l'infini? Impossible. Comment le limité peut avoir une vision de l'illimité? Apparemment, c'est pas possible. Et pourtant, Paul Ferrini le fait. Pourquoi? Parce que c'est pas Paul Ferrini humain qui le fait. C'est Paul Ferrini qui demande de l'aide pour décrire Dieu, pour embrasser la gloire de Dieu depuis le corps fini, l'esprit séparé de Paul Ferrini. Hein. Et c'est à ça que servent les canalisations. Je n'ai pas à me soucier de quoi dire ou quoi faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger, ou va parler à travers moi. Et à travers Paul Ferrini, la gloire de Dieu peut être décrite. Pourquoi? Parce que c'est l'infini qui parle, c'est l'illimité qui parle, et non plus l'esprit divisé qui dit « je suis humain, mortel, séparé de l'amour ». Voilà. Et Paul Ferrini, à travers cette canalisation, dit ceci « Dieu n'a pas de forme, il réside en toute chose, il n'existe pas de lieu où l'on ne puisse le trouver. Dieu n'est pas une quelconque abstraction. Dieu est une présence vivante, totalement bonne, vouée au don, heureuse, entière et dénuée de toute peur. Pouvez-vous imaginer un tel être? Lâchez les limites que vous mettez au possible. Dieu dépasse ses limites, car il n'a pas de forme. Étant informe, il réside en toute chose. Il n'existe pas de lieu où l'on ne puisse le trouver. Dieu n'est ni masculin ni féminin, car il n'a pas de corps, donc pas de sexe. On fait souvent référence à lui parce qu'il est masculin dans sa relation à nous. Nous sommes la matrice qui porte son esprit, la nourrit, et la met au monde. Bien que notre rapport à lui soit celui de la mariée au marié, Dieu ne se conforme pas à une certaine image masculine. Il n'est ni guerrier, ni chaman, ni sauveur. Il n'est pas le vieux sage à barbe blanche, ni sa version féminine. Toutes ses représentations sont anthropomorphiques. Dieu est une présence aimante qui rassemble toutes les qualités masculines et féminines. Il est affectueux et protecteur, doux et tendre, mais aussi fort et autoritaire. Il a la sagesse du philosophe et l'innocence de l'enfant, la force du guerrier et la sensibilité de la jeune mère. Dieu est tout cela à la fois et encore davantage. Il dépasse toute définition, impossible de le limiter au concept que nous avons de lui. Ça continue, hein, je vais m'arrêter là, mais j'ai été guidé, étant Dieu, à mettre « je suis » à la place de tout ce qui est dit là, pour me rappeler de ma nature. Hein. Donc, je n'ai pas de forme et je réside en toute chose. Il n'est pas de lieu où je ne puisse être. Je ne suis pas une quelconque abstraction, je suis une présence vivante, totalement bonne, vouée au don, heureuse, entière et dénuée de toute peur. Je réside en toute chose et il n'existe pas de lieu où l'on ne puisse me trouver. Je ne suis ni masculin ni féminin, car je n'ai pas de corps, donc pas de sexe. Je suis une présence aimante qui rassemble toutes les qualités masculines et féminines. Je suis affectueux et protecteur, doux et tendre, fort et autoritaire. J'ai la sagesse du philosophe et l'innocence de l'enfant, la force du guerrier et la sensibilité de la jeune mère. Je suis tout cela à la fois et encore davantage. Je dépasse toute définition. Impossible de me limiter au concept que nous avons fait de Dieu. Voilà, ça peut être comme des mantras, ça, c'est-à-dire des syllabes puissantes chargées d'énergie pour nous rappeler la vérité. Hein? N'oublions pas que nous sommes Dieu, puisque Dieu est en toute chose et en tout être. Et Dieu est la vie, hein? Dieu est l'existence même. Dieu est la source et Dieu est l'univers. Et Dieu est l'impulsion vivante qui étend la vie en permanence. Et je ne peux pas être en dehors de cette source-là, en dehors de cette impulsion, puisqu'il n'y a que ça. Il n'y a que Dieu. Dieu est de toute éternité. Donc, ces paroles ne viennent pas d'un esprit humain, et donc, ces paroles visent à nous rappeler notre vérité. Hein. Ces paroles visent aussi à nous rappeler qu'il n'y a pas un Dieu qui soit extérieur à nous. Il n'y a pas un Dieu qui soit doté de propriétés d'ego ou anthropomorphiques. Chaque atome de l'univers est sacré. Hein? Chaque vie est sacrée et chaque vie est dans Dieu. Et je suis aussi dedans. Voilà, dans mes moments de doute, dans des moments de séparation, je peux simplement relire ces phrases qui portent une vérité profonde. Peu importe que je croie ou non à ces phrases, elles sont vraies, que j'y croie ou non. Et les lire et me les citer est un rappel à une vérité qui est profondément engrammée en moi, que j'ai essayé de masquer, et que j'ai essayé de voiler pour mieux jouer le jeu de la dualité. Bon, ben, j'ai joué le jeu de la dualité à perfection. Bravo. Hein? Comme dit Saluza dans un de ses derniers messages, je peux me donner une petite tape sur l'épaule pour me féliciter de à quel point je me suis enfoncé dans l'obscurité de la dualité en essayant de relever le défi d'en sortir avec mes propres forces. Hein, et c'est parfaitement joué. Hein, c'est parfaitement... tout ce rêve, toute cette illusion, tout ce monde, tous ces corps n'enlèvent pas la vérité que Dieu est. Ne masquent rien. Hein, ne font pas que la réalité n'est plus la réalité. J'ai simplement accepté de penser que dans un monde d'amour, il pouvait y avoir une bulle où l'amour n'était pas. Hein. Et je me suis efforcé de croire à ça profondément, au point d'oublier tout le reste, au point d'oublier que seul l'amour existe et que seul Dieu existe. Voilà. Et donc, parce que je suis divin, mes croyances sont honorées. Et parce que je suis divin, mon désir de sortir de ce rêve d'illusion aussi est honoré. Mais je demande. Hein. Si je ne demande pas, ça veut dire que j'ai envie de jouer encore. C'est important hein, de demander. Voilà, maintenant, j'ai assez joué aux choses malheureuses. Avant de retourner joyeusement dans l'indifférencié. Je veux jouer aux choses heureuses. Hein. C'est ce que le chapitre du cours décrit comme le rêve heureux. Je suis encore dans le monde, mais je suis plus du monde. Hein. Voilà, il y a quelques phrases que j'ai notées là. Les rêves heureux se réalisent non pas parce que ce sont des rêves, mais seulement parce qu'ils sont heureux. Ainsi, ils doivent être aimants. Leur message est « Que ta volonté soit faite » et non « Je veux que ce soit différent ». Voilà. Et ta volonté, c'est le parfait bonheur pour moi. Quand je dis « ta », c'est la volonté de Dieu. Donc, je me rappelle de la vérité et que je demande seulement la vérité, hein, à vivre la vérité. Et dans l'illusion que nous vivons, nous pouvons progressivement éliminer de notre vie l'ivraie, c'est-à-dire tout ce dont nous ne voulons plus, parce que c'est bon, l'expérience a été tentée avec ça, et je ne me sens pas l'obligation de rejouer les mêmes scènes de la pièce de théâtre. Hein. Elles ont été jouées, comprises, apprises, chaque scène a un enseignement. J'ai été bourreau, ok, j'ai appris ce que c'était. J'ai été victime, ok, j'ai appris aussi. Et puis je peux embrasser bourreau et victime ensemble. Je peux les bénir tous les deux, tous ces rôles, je peux les bénir parce que ils m'ont appris les deux facettes. Et ils m'ont appris à trouver la lumière ensemble, dans ces deux-là, à les réunir dans la lumière, comme dit Jésus. Donc, j'ai joué le bourreau, ok. J'ai joué la victime, ok. C'est fini, c'est fini. Je ne souhaite plus recommencer indéfiniment. Hein. Je manifeste mon désir d'être aidé pour que la volonté de Dieu pour moi soit réalisée, c'est-à-dire le parfait bonheur. Il n'y a pas d'autre volonté de Dieu pour moi. Et je quitte cette pensée qui voulait expérimenter autre chose dans des buts aussi d'extension et d'amour. Hein. Malgré les apparences, la dualité a un sens. Mais la dualité a été jouée. Elle a été jouée. Et n'a pas vocation à durer l'éternité. Hein. Elle n'a pas la vocation à être une simple croyance qui se matérialise par une bulle illusoire de non-amour dans un océan d'amour qui, à l'instant même où elle s'est créée, est dissoute. Hein, parce que dans cet instant, j'ai créé la totalité de l'espace et du temps dans lequel ça semble se passer. Donc j'ai conscience que cette bulle est déjà fermée, hein, que cette parenthèse illusoire est déjà fermé et je demande le retour. Alors comment je le fais? Moi, je en ce moment, je suis guidé à enseigner dans les cours de méditation active aux personnes qui méditent dans le silence et l'immobilité avec des termes spécifiques qui me sont venus spontanément, je dirais. Je leur dis, avant de commencer l'étape de silence, avant de commencer l'étape d'immobilité, si vous savez que c'est pas facile d'être silencieux, si vous savez que c'est difficile pour vous d'être immobile, allumez la veilleuse de votre conscience. Et communiquez à la veilleuse de cette conscience pendant 15 minutes. Je reste silencieux ou silencieuse. Pendant 15 minutes, je reste immobile. Et c'est quoi cette veilleuse? C'est celle qui veille. C'est celle qui ne s'éteint jamais. C'est pas celle de mon monde agité qui dit « ça me gratte, je me gratte, j'ai mal aux fesses, je bouge, je fais un mouvement où je baille, où je renifle en quittant ce profond désir d'être silencieux pour être dans Dieu, hein, pour être connecté à qui je suis, qui n'est pas dans la forme, pas dans le mouvement, pas dans le temps, pas dans quoi que ce soit de connu sur Terre. Et cette veilleuse, moi je l'imagine comme veillant à 3 ou 4 mètres de hauteur, au-dessus de mon apparente réalité, et n'étant pas perturbée par tout ce qui se passe en dessous. Hein. Elle veille dans le silence et l'immobilité. Et cette veilleuse ne s'éteint jamais, à partir du moment où je l'allume. J'ai le pouvoir de l'allumer. Et on peut dire que cette veilleuse, c'est le Saint-Esprit. On peut dire ce qu'on veut. Dès que je dis « je suis », j'invoque une présence très puissante qui est la partie divine de mon esprit. Parce que « je suis », c'est ce qui décrit le mieux ce que Dieu est. « Je suis », « Dieu est ». C'est la même chose. C'est ce qui est un rappel puissant de la vérité. Donc « je suis immobile », l'univers répond « ok, patron ». Je suis vivant, ok aussi. Je suis silencieux, que ta volonté soit faite. Hein? Derrière je suis, les mots prennent une intention puissante de réalisation. Et c'est une période sur Terre pour que les intentions se réalisent puissamment lorsqu'elles sont invoquées avec je suis, hein? Avec la vérité de qui je suis. Donc, je me programme et je dis à mon esprit puissant, je suis immobile. Et comme Dieu ne sait dire qu'un seul mot, c'est d'accord, alors que ta volonté soit faite. Hein? Et lorsque j'ai cette petite agitation de l'esprit qui dit, avis, bouge ton bras pour être plus à l'aise. J'ai la veilleuse qui me dit, rappelle-toi de ta volonté. Et qui dit, plus tard, pas tout de suite. Reporte ça tout à l'heure. Maintenant, reste tranquille. J'ai une veilleuse qui n'est jamais agitée. Et en fait, cette veilleuse, elle observe l'esprit divisé d'avis qui dit, bouge un peu pour avoir un peu moins mal au dos. Fais ceci, fais cela. Gratte-toi la gorge. Doucement, doucement. Pas tout de suite, pas tout de suite. Et j'assiste à une sorte de dialogue. Mais qui prend la parole au nom de la veilleuse, hein? Une partie qui est sans arrêt dans le calme et qui observe une autre partie qui est divisée et agité et qui veut rompre la paix et qui veut rompre le silence et qui veut rompre l'éternité, hein, avec le temps, hein, qui veut changer ce qui est inchangeable. Et quand je programme cette partie-là, eh bien, je suis téléguidé. Hein. Je n'ai pas à me soucier de quoi dire ou quoi faire. Je n'ai pas à me soucier de si je vais être immobile. Et de comment je vais être immobile. Simplement, je dis, je suis immobile. Et cela est. Chaque fois que je dis, cela est, c'est terminé. Je suis plus dans ce monde. Je suis dans la réalité. Et donc, je peux invoquer une partie qui m'accompagne en permanence, simplement en reconnaissant qu'elle est là. Et si je ne reconnais pas qu'elle est là, alors, eh bien, il n'y a plus que la partie séparée de l'esprit qui est perceptible. Et je suis tributaire de l'agitation, de l'absence de paix, de l'espace, du temps. Voilà. Ceux qui méditent avec leur intériorité, avec ce « je suis », cette présence vivante, ceux qui méditent racontent des sensations de sortir du temps. Raconte de sensations de flotter dans l'espace. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont demandé. C'est tout. Donc, j'ai demandé le rêve, j'ai eu le rêve. Si je demande la paix, j'ai la paix. Si je demande d'être dans la présence divine, dans la présence vivante, sans forme, je le suis. Hein. Je l'ai toujours été, mais je demande la perception de ça. J'ai juste à le demander. Hein. C'est ce qui est rappelé dans les phrases que j'ai que j'ai lu, hein, Le rêve heureux. Ne t'approche jamais de l'instant saint après avoir essayé d'enlever toute peur et toute haine de ton esprit. Cela est sa fonction. Ne tente jamais de passer sur ta culpabilité avant de demander l'aide du Saint-Esprit. Cela est sa fonction. Donc, j'attends pas d'être parfait pour être dans la paix. J'offre mon imperfection à l'Esprit pur qui me dirige. Hein. J'offre mon agitation et je lui dis, occupe-toi de ça, parce que moi, je ne sais absolument pas, je ne connais que l'agitation du point de vue divisé de mon esprit. Donc, je ne demande pas à l'ego de me sortir du rêve. Il n'en a pas la capacité. Hein. L'ego, c'est l'antithèse de la vérité. Donc, comment l'illusion pourrait-elle me rappeler la vérité? Comment c'est possible? L'illusion, c'est tout ce qui n'est pas la vérité. Donc, il n'y a pas d'intersection entre l'ego et la réalité. Il n'y en a aucune. Donc, je demande à la partie de moi qui m'accompagne, qui, elle seule, sait. Et c'est moi, hein. C'est moi à un niveau non séparé. Et assurément, avec une demande honnête, pure, authentique, et qui se détache du résultat qui est seulement de l'ego, hein, l'attachement au résultat, assurément, l'univers me répondra « Ok, patron, que ta volonté soit faite. » Et je voulais citer une petite anecdote. Lorsque j'ai un esprit ouvert à entendre la vérité et agir au nom de l'amour, alors l'univers m'envoie des tas de signes pour me dire « Vas-y, continue, la route est tracée. Hein, » Et aujourd'hui, j'étais dans un lieu très beau, très lumineux, avec des oliviers à l'intérieur d'un lieu. Et sur la brochure du lieu, qui est une ancienne coopérative ouvrière, sans aucun rapport apparent, il y avait écrit « C'est un lieu dédié à la lumière et à la création. » Voilà. J'étais profondément touché par ces deux mots, hein, qui sont comme des signes de l'esprit, qui dit « Tu es au parfait endroit à tout moment. Hein, tu es parfaitement guidé. » Je n'ai pas compris immédiatement le rapport entre le lieu où j'étais et ce lieu est dédié à la lumière et à la création. Et en même temps, dans ce lieu, la perception que j'avais, c'est je suis chez moi, je suis à la maison, je suis dans ma famille. Hein, pour ceux qui veulent connaître, ça s'appelle la Belle Villoise, un lieu que moi j'appelle un lieu de nouvelle terre. C'est dans le 20e, hein, ça se trouve aisément sur Internet.
La question que je me pose, alors ma question n'est pas très structurée encore dans ma tête, j'espère être suffisamment inspirée pour l'énoncer correctement. Il y a des choses que dans ma vie que j'identifie comme n'étant pas encore en place parce que j'ai des objectifs de vie. Je pense à des activités professionnelles, par exemple, où je fais un métier qui n'est pas désagréable à faire, mais je sens que profondément, c'est pas ma vocation finale. Puis d'un autre côté, c'est comme ça que je vis aujourd'hui. Bon. Et puis, j'ai accepté de faire ce métier aujourd'hui, donc je le fais. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a... j'arrête pas de demander à l'univers, quand ce sera mon heure de faire autre chose, je suis là. Et en même temps, est-ce que... On disait tout à l'heure, il n'y a pas de stratégie. S'il n'y a pas de stratégie, mais pourtant, il y a bien des impulsions à donner. On a bien... en tout cas, je voudrais pouvoir avancer sur le chemin. Alors... Peut-être qu'avancer, c'est peut-être par des biais différents et qu'il y a d'autres choses à faire avant. Mais voilà, il y a la sensation qu'il y a des choses qui, dans ma vie, sont pas encore... j'aspire à certaines choses et elles n'y sont pas, et j'y suis pas encore, et que c'est peut-être pas l'heure. Et en même temps, je voudrais pouvoir y mettre plus d'intention, plus de volonté. Et je me sens un petit peu, comme disait Estelle, paumée par rapport au fait que... est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire ou il y a juste à être là en attente de... Enfin, c'est pas être passif, parce que quand je dis en attente, c'est pas être passif, mais juste être en réceptivité de ce qui... être en demande et en réceptivité de ce qui peut arriver. Voilà, je me pose toutes ces questions-là. Je sais pas trop comment mener les choses. Bon.
Merci Carole, pour ce partage. C'est quelque chose qui revient sans cesse et que nous vivons tous. Et il semble y avoir un paradoxe, et c'est normal, parce que il y a une invitation à lâcher prise totalement, mais totalement, et à tout accueillir. Accueillir tout ce que nous vivons, donc également des impulsions que nous avons. Tu parles de ton travail et puis tu as peut-être une impulsion à d'autres façons d'exprimer tes talents, avec éventuellement des rentrées d'argent pour vivre, etc. Bien, un autre travail, on va dire. Et donc on est tout le temps, il y a une invitation à accueillir, cet accueil finalement s'élargit à tout, y compris nos impulsions. Et alors, on semble, pendant un moment, être un petit peu, comme tu viens d'exprimer, comme l'a exprimé Estelle aussi, un petit peu paumé, un petit peu... qu'est-ce que je dois faire? J'ai des impulsions, qu'est-ce que j'en fais de ces impulsions? C'est normal, la question vient. La question vient forcément de l'ego. L'ego n'a rien de mal, L'ego, c'est une façon de voir, c'est une perception qui est inhérente à l'incarnation. Donc l'ego, on sait tout ce que c'est une façon de voir, une façon de percevoir quelque chose de séparé, c'est tout. C'est ni bien ni mal, c'est une façon de voir, c'est une croyance. Donc on cesse de diaboliser l'ego et de dire que c'est pas bien. Pourquoi est-ce qu'on d'ailleurs on dit que c'est pas bien? C'est parce qu'on s'aperçoit avec beaucoup d'observations que finalement ça apporte de la souffrance à terme. Et donc on a envie de dire, j'en veux pas. Mais comme on a choisi l'expérience, encore une fois, et on le redit sans cesse, pour en sortir, faut l'aimer, c'est-à-dire l'accueillir, l'expérience, et arrêter de la refuser. Et donc je reviens à l'instant présent, où dans cet instant présent, effectivement, je suis invité à tout accueillir, et en même temps, j'ai dit c'est drôle, je sens que je change d'appartement, ou de maison, je change de travail, ou je suis attiré par telle personne, est-ce que je vais avoir une relation intime avec telle personne, ou mille choses comme ça, mille choses, je dis bien des choses à l'infini. Et donc il semble y avoir un paradoxe entre j'accueille tout, et en même temps j'ai des impulsions à des mouvements. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais la réponse est simple, c'est un grand éclairé, je l'accueille, tiens. J'accueille mes impulsions, mes désirs, mes rêves. Je dis, tiens, c'est drôle, oui, je pense beaucoup à telle personne, tiens, oui. Tiens, oui, j'aimerais bien changer de boulot. Tiens, j'aimerais bien changer de maison, ou d'appartement, ou de logement. Et donc j'accueille toutes ces pensées en permanence.
Et là, je viens d'employer le mot en permanence, mais il n'y a pas de permanence puisqu'il n'y a que l'instant présent. Donc la réponse, c'est un grand éclat de rire puisqu'il n'y a que l'instant présent. Et donc dans l'instant présent, je m'aperçois que de plus en plus, j'élargis, comme si je m'étends, je m'élargis mon accueil à tout, y compris à toutes mes impulsions. Et peu à peu, je me mets à beaucoup plus m'amuser, rire, en disant, tiens, j'ai telle idée de construire ceci, cela, d'avoir telle relation avec telle personne, j'en sais rien, n'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi, j'accueille toutes mes pensées, donc toutes mes impulsions. Or, les impulsions sont fondamentales parce que le désir, sans désir, il n'y a rien. Et donc, j'accueille dans l'instant présent, à la seconde présente, parce qu'il n'y a que ça qui existe, j'accueille ce qui se passe en moi. Et donc, ce qui me paraissait un problème, en disant, voilà, j'ai une impulsion à tout accueillir, en même temps, j'ai des désirs, des impulsions à agir. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'accueille ces impulsions, et je fais ce que je sens. Mais je fais vraiment ce que je sens. Et j'arrête de me casser la tête avec ça, et je me dis, qu'est-ce que je veux vraiment maintenant? Ben, je vais aller dans mon frigo et prendre une glace au chocolat. Alors, je vais aller prendre une glace au chocolat, mais c'est vraiment là que ça se passe. C'est vraiment ça. Ou au contraire, je vais téléphoner à telle personne. Ah oui, mais elle va pas être là. Bah, téléphone. Et je fais ce que je sens. Et puis, tiens, puis je vais faire pipi, je vais faire pipi. Et c'est très important. Pour ça, je mange une banane. Et c'est là. Et c'est ça. Et c'est là que ça se passe. Et oui. Et c'est ça. C'est vraiment ça. Je me souviens, j'ai déjà partagé ici, l'année dernière, avant mon premier voyage en Israël, Yeshua m'avait dit, quand tu sais plus très bien quoi faire, ça répond à ta question que tu viens de poser, en disant, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Voilà, je me trouve à Qumran, je me trouve sur le lac de Tibériade avec des amis de César, et là, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, quand tu sais pas très bien quoi faire, dis-toi bien de quoi j'ai envie maintenant. Est-ce que j'ai envie de marcher dans la rue, dans les rues de la vieille ville de Jérusalem? Est-ce que j'ai envie de rentrer dans un magasin, de m'asseoir à l'ombre? J'ai dit, il m'avait pas dit de m'asseoir à l'ombre, mais à un moment, j'ai eu une expérience très forte parce que j'ai dit, ben moi, j'ai trop chaud à Qumran, je vais à l'ombre. Et j'ai été à l'ombre, et c'est là, justement, parce que j'ai été à l'ombre, que j'ai pu avoir une expérience avec une enfant de 8-10 ans qui est arrivée avec une grosse pierre, j'ai déjà raconté ici, m'a passé un message par rapport à la pierre manquante sur le chemin de la maison. On peut dire qu'on est tous la pierre manquante sur le chemin de la maison. Et c'est parce que j'étais à l'ombre, justement, en disant, mais j'ai envie d'être à l'ombre parce que moi, il fait trop chaud à Qumran, c'est bien gentil, mais enfin bon, ok, je vais me mettre à l'ombre et puis on va voir après. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment là que ça se passe. Et c'est beaucoup plus simple qu'on pense parce qu'on vit que l'instant présent. Et c'est vrai que je ne cesse de parler de cet instant présent, mais je veux dire que je le vis beaucoup. C'est-à-dire que je me réveille la nuit, peut-être dans la soupe, à 2, 3, 4 heures du matin, etc. Bon, je vais en titubant dans la cuisine, éventuellement je me fais un café ou pas, etc. Mais je suis toujours là et je dis, qu'est-ce que je veux? Un verre d'eau, rien, m'asseoir, allumer mon ordinateur, n'importe quoi. Et c'est là que ça se passe. Alors donc j'allume mon ordinateur. Éventuellement, je regarde rien. Tiens, j'ai envie de jouer à Freecell, je fais un Freecell. Ouais. Ce qui me permet simplement de bouger les doigts sur le clavier, sur ma souris, je veux dire. Ça ne m'intéresse pas, le jeu, mais je fais ce que je sens. J'ose être enfant. J'ose être enfant qui joue avec un caillou, avec une soucoupe volante, avec n'importe quoi. L'enfant joue. L'enfant s'amuse de ce qui est là devant lui. Et il est dans l'instant présent, l'enfant. On lui apprend peu à peu le futur et le passé. On lui apprend à attendre Noël, à attendre un anniversaire, à attendre les grandes vacances, etc. Mais le petit enfant, si on lui demande « Pourquoi tu as fait ça dans ton jeu ?» il ne comprend pas. Il s'amuse. Il joue. Donc il imite, mais il imite sans but. Je me souviens de mon fils qui était tout petit, alors que ses deux sœurs aînées avaient énormément gagné de billes, qu'elles n'avaient jamais rien, mais elles avaient gagné plein de billes dans leur école. Et donc, on faisait des parties de billes, et lui était tout petit, et il était mais heureux, il hurlait de rire en jouant aux billes. Et à un moment, il a lancé la bille, il a gagné parce qu'il a tapé l'autre bille. Donc, c'était à lui de recevoir les billes. Et donc, j'ai observé ça. Et donc, il recevait plein de billes, mais il n'avait aucun sens de la propriété. Il ne comprenait pas qu'on gagnait des billes. Ça n'avait aucun sens. J'ai vu ça. Et par ailleurs, je le voyais aussi quand il lançait la bille, il mettait la bille devant son œil parce qu'il imitait ses sœurs. Et en fait, on met la bille devant son œil pour pouvoir viser et bien lancer la bille. Mais lui, il mettait devant l'œil parce que ça l'amusait d'imiter ses sœurs, c'est tout. Il n'y avait pas de but. Il ne savait pas ce que c'était que le but. Et quand j'ai compris ça, 2-3 jours après, j'étais rentré à Paris, parce qu'il était dans le Gouvard à ce moment-là, et j'ai reçu comme une révélation de voir l'enfant qui joue dans l'instant présent, qui n'a aucune notion du futur et du passé. Et quand Jésus nous dit « revenez comme des petits enfants », c'est très profond. C'est beaucoup plus profond que nous le pensons. Il n'y a pas de passé et il n'y a pas de futur. Donc il n'y a aucune stratégie à avoir, puisqu'il n'y a pas de passé et pas de futur. On a l'impression qu'il y a des stratégies à avoir. Oui, c'est pas nié, on a ces pensées qui tournent. Ok, je les embrasse, je les aime, je les accueille. Mais je les prends pour ce qu'elles sont. Ce ne sont que des pensées. Il n'y a pas de futur. Alors on nous dit, mais vous créez votre futur avec votre état de conscience maintenant. D'une certaine manière, c'est vrai, mais c'est une façon de parler. Parce qu'on ne parle sans cesse du passé et du futur. Le courant miracle n'arrête pas d'en parler. Il dit même lorsque Dieu vous a créé, donc il emploie le passé composé. Dieu vous a créé. Puis après ça, on va dire le temps n'existe pas. Alors de quoi on parle? Donc j'accueille le jeu du temps, j'accueille le jeu de l'illusion, mais je sais que c'est une illusion. Et donc je suis sans cesse dans l'instant présent et peu à peu je comprends que, aussi bien moi-même que mes frères et sœurs, nous sommes tous en train d'être guidés dans un chemin, encore une fois, hautement individualisé, guidés à lâcher prise de plus en plus, c'est-à-dire à laisser aller nos croyances à des choses à faire, des choses à réussir, des choses qui seraient mieux. Et donc comme il n'y a rien qui est mieux, ma situation présente, même si mon job, comme tu dis par exemple, me satisfait pas trop, etc., mais je compte mes bienfaits, j'ai créé ce job, j'ai créé cet appartement, cette maison, cette relation, ceci, cela. Ma voiture, même si elle paraît un peu vieille, un peu pourrie, mais merci, tu marches. Je crée tout. Je crée les chaussures que je mets au pied pour aller dans la rue, etc. Tous les détails, toute la nourriture, tout mon fonctionnement, ce corps. C'est moi qui crée tout ça. C'est incroyable. Et après ça, je me fais des idées, ça serait mieux si. Ça serait mieux si. Mais quoi? Quelle bonne blague! Je dis, mais quelle merveille! L'instant présent est parfait, je suis le créateur de tout ça. Tout ce que je vois, c'est moi, en sens de l'esprit que je suis, qui est créateur à l'infini, qui imagine à l'infini ce monde incroyable. Donc je reviens à l'instant présent, parce qu'il n'y a que ça. J'accueille toutes mes pensées, toutes mes stratégies, toutes mes idées, tous mes désirs qui surgissent. Et c'est pour ça que, par exemple, avec Sylvain Dilvaux, le deuxième message qu'on avait pris, le titre c'était « Vos pensées sont des propositions divines ». Justement, j'ai des pensées « Ah, je pourrais changer de boulot ». Oui ou non? Oui, oui, ça me plaît, tiens, mais c'est tout. C'est tout, je laisse l'univers s'en occuper. Mais je remercie pour mon boulot actuel, je remercie sans aucune limite pour tout ce que je vis maintenant, tout ce qui est là, présent devant moi, dans cette illusion, d'accord. Ici, il y a des gâteaux sur cette table, il y a des tasses, il y a des gens autour de moi, ici on parle, on est chez Avi. Mais quelle merveille! La merveille, c'est incroyable. Il n'y a pas un détail qui n'est pas divin, qui n'est pas divinement placé par le divin que je suis, que nous sommes. C'est ça. Et c'est incroyable. Donc j'accueille le changement et en même temps j'accueille ce qui est là, ou ce qui me semble être là. Ce qui semble ne pas être moi, parce que évidemment c'est le principe de la perception, tout ce que je vois ça semble pas être moi. Donc j'accueille ça amoureusement, plus que jamais. Je rentre dans cette expérience, je l'accueille, je l'embrasse, dans l'instant présent. Donc j'accueille mes pensées, mes désirs, ah oui, oui, effectivement, oui, j'aimerais ceci, cela, peut-être, ceci va se passer, je dis oui à tout. Je dis oui à tout parce que c'est l'esprit s'en occupe. Et mais quel est cet esprit qui s'en occupe? C'est l'amour, donc, qui ne veut que le bien de tous. Ben, je dis oui, bien sûr, évidemment. Je dis oui à la vérité. Et là, il y a, disons, le ciel et la terre qui deviennent un. Donc il y a cette notion de dualité qui est toujours là, qui se balade. L'ego, il est toujours là, là. On a choisi une expérience humaine, donc l'ego, il est là. Seulement, Il n'a plus d'impact négatif, ce qu'on appellerait négatif, c'est-à-dire qu'il n'a plus, il n'a plus d'emprise sur moi. Je suis libre avec un ego, vous comprenez? Donc on peut dire qu'il a disparu, c'est une façon de parler tout ça, bien sûr, puisque c'est une croyance. Donc je sais très bien ce que c'est que l'ego, et que la croyance, que c'est la jalousie, le sentiment de manquer, la peur d'être mis en prison, de je sais pas quoi, de, d'être jugé, tout ça. Je sais tout ça. Mais j'aime ça. Je me réjouis de l'expérience. Je me réjouis de l'expérience de mes frères et sœurs, parce que ma perception est passée au-delà de l'illusion. Comme disait le message, le quatrième message pris avec Sylvain Dillot, l'activation du troisième brin d'ADN de lumière. Nous quittons la pièce, mais nous restons sur scène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le but de la pièce, c'était la séparation, c'était s'amuser à la séparation. Là, on quitte. Le but change. Maintenant, c'est le réveil. C'est la séparation, non, elle n'existe pas. Donc, on n'est plus dans la pièce, on n'est plus dans la pièce qui était faite pour prouver, pour s'amuser à jouer la séparation. On choisit la non-séparation. Mais on choisit, mais on est sur scène, on reste sur scène, parce qu'on est là en mission, on est là en témoignage, on est là dans cette illusion apparente, on sait que c'est un rêve, donc on continue à rêver, mais on est réveillé dans le rêve. C'est des façons de parler, bien sûr. Seulement votre cœur, lui, il va savoir, il sait ce que c'est. D'accord, c'est au-delà des mots, mais ça fait rien. Les mots sont toujours des outils qui sont duels, qui sont dans ce monde de séparation, mais qui pointent. Et tout à l'heure, Avi nous disait un passage, justement, où les mots, disons, les formes duels, les formes finies, sont utilisées pour parler, ou disons, pointer vers l'infini. Parce que l'infini, c'est incroyable, c'est infini. On n'a aucune limite. Rien ne nous arrête, rien. Et pourtant, nous semblons être arrêtés par un tas de choses, être bloqués par un tas de choses. On dit, mais par exemple, ben les oiseaux, ça vole, et nous, on ne vole pas. Donc, on est bloqué, là, on est limité. Oui, dans l'expérience humaine. Mais est-ce que ça me rend malheureux? Est-ce que... Non, bien sûr que non. Il y a des êtres qui sont boiteux, qui ont du mal à marcher, et pourtant, je les vois rayonner d'amour et de joie. D'autres, au contraire, qui ont un corps apparemment magnifique, qui sont extrêmement sportifs, on va dire, costauds, bien fait de leur personne, comme dit le monde, et je les vois dans l'angoisse, dans la tristesse, dans la déprime. Merci pour l'enseignement. Ok, je commence à comprendre que ça n'a rien à voir avec la joie que nous sommes. Donc dans l'instant présent, ce qui importe, c'est de tout accueillir, y compris mes désirs. Mais j'accueille la situation et j'accueille le changement de la situation. Donc ce qui semblait être une difficulté, disons un paradoxe, ne devient pas du tout un paradoxe. C'est comme ça maintenant, je l'aime et j'aime aussi le changement. Disons, j'intègre les deux. C'est très simple. C'est l'enfant qui joue. Il joue à un jeu, il peut changer de jeu dans la seconde qui suit. Ça n'a aucune importance. Je ne fais plus dépendre mon bonheur de quelque chose. J'apprends à être, à compter mes bienfaits, c'est-à-dire à me dire, mais c'est merveilleux ce que je vis maintenant. Et j'accueille le changement. Parce que le changement sert à tous, à tous mes frères et sœurs et à moi-même. Donc, ok, tout change, d'accord. Et je dis d'accord au changement, en accueillant ce qui est là maintenant.
J'ai le cœur qui bat plus fort que d'habitude. Je suis très très émue d'être là. J'ai envie de laisser ma parole. Je ne sais pas du tout si c'est le lieu, ni l'endroit, ni... La fontaine coule, mon cœur bat, mon cœur est plein de remerciements d'être là. C'est un très bel endroit. Je suis arrivée en retard. J'étais perdue. Et je me suis dit, la liberté, c'est pas facile. C'est peut-être pas si simple que ça. 15 rue de la Liberté. Mon père est mort il y a 3 ans, le 15 octobre. On était 15 à son incinération. Et je suis née dans le 15e arrondissement. Je ne sais pas comment j'ai eu ces informations de la vie. Mais il fallait que je vienne là. Je ne savais pas pourquoi il fallait que je vienne là. Je pense que c'est la chaudière qui se met à chauffer. Les romanichels se sont tus depuis que le vent a tourné court. Les chaudières ont envie de nous réchauffer. Ont envie de changer le programme. Il paraît que la terre va se réchauffer et pourtant j'ai de plus en plus froid. Quel plaisir d'avoir un micro et de pouvoir me laisser aller à ce qu'il advient. Alors c'est peut-être l'ego. C'est peut-être le jeu de go, une histoire de territoire, une histoire d'être en vie. Je ne sais pas comment dire à quel point je suis remerciante à l'univers d'être là. Comme disait cet homme en face de moi, quelle beauté partout. Quelle chance. Je veux bien me dévouer à vivre, si c'est pour revivre des moments pareils. Merci, merci. Merci à vous sept d'être là. J'ai l'impression que vous êtes chacun une facette de ma présence au monde, là, juste là.
Merci d'avoir parlé, toi belle personne. Merci d'avoir parlé, tous qui m'entouraient. Si ce que je dis, si je dis ce que je sens, effectivement, j'ai un cœur qui bat chamade. Et surtout, depuis que je suis arrivée, j'ai l'impression que le ciel m'est tombé sur la tête. Une densité, une densification qui fait que une énergie d'une puissance. Et on parlait d'intention. Et c'est vrai que depuis quelque temps, mon intention par rapport à moi-même, c'est de dire à l'Esprit Saint, je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi, alors vas-y, fais ce que tu dois faire, et puis aide-moi à suivre, parce que, voilà, je remets ma vie entre tes mains. Et au combien c'est parfois difficile, avec un ego qui ne m'amuse pas du tout en ce moment, parce que quand il se manifeste, il est tellement évident, tellement présent, aussitôt c'est le thème de la mort qui arrive très fréquemment. C'est pour ça qu'il est si reconnaissable, puisque si on réduit à sa plus stricte définition l'ego, c'est qu'il nous conduit à la mort, donc effectivement, je le reconnais bien. Et à côté de cela, il y a des moments de grâce. Des moments où je suis capable de dire, je me remets à toi. Vas-y, fais ce qu'il faut, parce que là, je ne sais pas où j'en suis. Je suis paumée, effectivement. Donc, aide-moi pour telle situation. Et pour ma vie en général. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc, toi, tu le sais. Avec ton plan divin. Donc, aide-moi à ce que ce soit facile. Et puis en même temps, j'ai une intention qui est plus large. Je souhaite dans l'union parfaite, le 1, le grand 1, toute la réunion des différents mondes. Et j'appelle les intraterrestres. Tous les esprits qui nous entourent sur cette terre. Tous les règnes. Minéral, végétal, animal, humain, angélique. Et les plus lumineux, de plus en plus lumineux. Les extraterrestres. J'appelle tous à se réunir. En disant que j'ai pas peur. Qui n'ont rien à craindre de moi, comme je n'ai rien à craindre d'eux. Parce que je suis guidée par l'amour de Dieu. Et plus nous serons nombreux à avoir cette vision large, plus ce sera facile. L'énergie est là. Elle est intense, elle est dense. À moi de jouer, à vous de jouer, à nous de jouer.
Je me suis senti guidé à ouvrir un cours en miracle. Et je lis une partie du paragraphe 8, le voyage du retour, le voyage de retour, qui s'appelle la sainte rencontre. Et ça dit, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et à toi, parce qu'il l'a voulu ainsi. Demande et l'on te donnera, parce qu'on t'a déjà donné. Demande la lumière et apprends que tu es lumière. Si c'est la compréhension et l'illumination que tu veux, c'est ce que tu apprendras. Parce que ta décision de l'apprendre est la décision d'écouter l'enseignant qui a connaissance de la lumière et peut donc te l'enseigner. Il n'y a pas de limite à ton apprentissage parce qu'il n'y a pas de limite à ton esprit. Il n'y a pas de limite à son enseignement parce qu'il a été créé pour enseigner. Comprenant parfaitement sa fonction, il la remplit parfaitement parce que cela est sa joie et la tienne. La seule joie et la seule paix que tu puisses connaître pleinement, c'est de remplir parfaitement la volonté de Dieu, parce que c'est la seule fonction dont tu puisses faire pleinement l'expérience. Ainsi, quand celle-ci est accomplie, il n'y a pas d'autre expérience. quand tu rencontres qui que ce soit, souviens-toi que c'est une sainte rencontre. Comme tu le vois, ainsi tu te verras toi-même. Comme tu le traites, ainsi tu te traiteras. Ce que tu penses de lui, tu le penseras de toi-même. N'oublie jamais cela, car c'est en lui que tu te trouveras ou te perdras. Chaque fois que deux fils de Dieu se rencontrent, une nouvelle chance de salut leur est donnée. Ne quitte jamais personne sans lui avoir donné le salut et sans toi-même l'avoir reçu. Car je suis toujours là avec toi, en mémoire de toi. Voilà, il n'y a que des saintes rencontres. Et je rencontre qui je dois rencontrer au moment parfait. Et seule ma vision de cette rencontre change le sens de cette rencontre. Et à chaque moment, je peux choisir le sens le plus élevé possible pour cette rencontre en choisissant ma vision. Voilà, sur ces phrases très porteuses de sens, je vais clôturer cet enregistrement, ce groupe d'aujourd'hui. Vous souhaitez un bel été et vous donner rendez-vous au tout début de septembre de cette année pour partager avec vous la joie de ces communions. De tout cœur.